102.1.
Eh bien non, ce n'est pas Pascal CV qui est là, c'est Mathias Turcotte. Il est là cette semaine, il est là la semaine prochaine avec nous. Il est sur le beat de l'actualité municipale. J'adore, Mathias, que tu sois sur le beat de l'actualité municipale parce que c'est un palier de politique qui me passionne. C'est celle qui est proche des gens. C'est celle ce dont on se doit de parler. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, aux alentours de 12h45, je vais vous présenter une autre erreur de communication de Bruno Marchand dans le dossier du tramway. On veut couper 1500 arbres, mais il n'y a pas un citoyen qui le sait. Puis la caisse de dépôt du wow, aux citoyens, c'est pas prévu pour se faire tout de suite. Bruno Marchand, pourquoi veut-il aller aussi vite dans le dossier du tramway?
On accélère les choses, hein?
Ouais, pourquoi?
Fédéral dit que ça coûte 13 milliards.
Ah,
on n'a plus de financement.
Ça pourrait être une bonne raison pour que l'on puisse dire « Ah ah! Il y a trop de choses de fait! » On en parle tout à l'heure vers 12h45. J'ai des extraits d'une très belle conversation que j'ai eue avec Mathias Gagnon, qui est le président du comité de citoyens Montcalm, donc la place où les 1500 arbres vont être coupés sur René Lévesque. Vous allez voir, font des demandes à la ville, ils n'ont pas de retour.
Pourtant, il y a du monde à la ville qui sont attitrés spécialement pour communiquer avec les commerçants à propos des travaux du tramway et communiquer avec les citoyens à propos du tramway.
Exactement. T'as tout compris. Le maire Marchand, ici, sur nos ondes, avait dit « Transparence, je vous le jure! » Rien ne sera caché dans le dossier du tramway. Haha, 12h45, vous allez apprendre ça, qu'il y a encore des choses de cachées. 12h30 également, on va avoir... La députée Christine Normandin, leader parlementaire pour le Bloc québécois, parce qu'il faut absolument parler du CURAM, Mathias. On est rendu à 6,6 milliards pour un logiciel qui gère les pensions de vieillesse et là, qui va être censé gérer l'assurance-emploi. On n'est pas encore rendu là. Bref, c'est pire que ça clique.
Puis en plus, il fonctionne mal.
C'est ça. Donc, on va parler de ça à 12h30 parce qu'on va se préparer, parce que lundi prochain, studio ici vers 12h10, on va avoir Joël Lightbound qui va venir répondre à nos questions. Probablement, on va commencer avec le CURAM.
Probablement.
D'après moi, oui.
Selon moi, ça va faire plaisir à Antonine de commencer avec le CURAM.
Oui,
aussi.
Parce que c'est Antonine qui nous avait rapporté ceci mercredi en ondes, qui commençait à nous allumer là-dessus, là, à dire « Hey les boys, il y a de quoi qui se passe à Ottawa qui est un peu comme ça clique. » Évidemment, on parlait de ça clique aussi aujourd'hui avec l'excellent chroniqueur Lambert Drainville parce que c'est lundi que le commissaire Galland va rendre public, justement, son enquête qu'il a fait. Donc, qui va-t-il blâmer? 48 avis de blâme sur Carl Malenfant. Imagine, il devrait en rester 2-3 à la fin de tout ça. Alors, on va parler de ceci. Puis lundi, d'ailleurs, on va être vraiment en couverture en direct de la commission Galland parce qu'on va avoir l'analyse d'Antonine Iaccarini. La conférence de presse est à 11h30. Et en fin d'émission, on va avoir Moncef Déragie qui va être présent également. Le critique en matière de transformation numérique et leader parlementaire pour le Parti libéral du Québec devrait venir s'asseoir en studio avec nous si la conférence de M. Galland n'est pas trop longue. Donc, vous vous demandez pourquoi écouter Boulevard 101, vous vous demandez pourquoi écouter On en jase. Bien, c'est simple. C'est pour toutes ces raisons-là. On est les premiers sur l'actualité. Il n'y a pas de doute pour moi. Si vous écoutez un autre poste, là, ben, peut-être bien qu'il y a 45 minutes, une heure après que nous, on en ait parlé. Ah là, vous allez en entendre parler. C'est nous qui amène la nouvelle en premier. 418-971-1021 pour nous rejoindre. On est également disponible sur la web radio via le blvd.fm. Vous pouvez aller réécouter les meilleurs moments. La chronique de notre chum Lambert Drainville va être immédiatement mise sur le site web après l'émission. twitch.tv/blvd/fm, c'est pour venir nous voir en studio, commenter également via le chat. Abonnez-vous à notre page YouTube parce que justement, les caucus se retrouvent sur YouTube. La prestation de Lambert Drainville va se retrouver sur YouTube. Bref, vous pouvez réécouter les meilleurs moments. Puis en plus, en nous voyant, t'sais, on est trois beaux bonhommes quand même.
Mais oui, trois beaux gars.
Il faudra quand même que les femmes viennent.
Parle pour vous autres.
Ouais, OK, parfait.
Tu t'inclus pas là-dedans?
Ouais.
Non, je m'inclus pas là-dedans. Je laisse les gens à juger.
OK, parfait.
Mais ben, pour en juger, ça se passe sur Twitch.
Voilà.
Et voilà.
Allez nous dire votre opinion sur Twitch.
Yes. Avant qu'on saute à pieds joints dans la commission Galland, ce rapport qui va être distribué lundi. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Je commence avec un événement qui s'est produit au tournoi Pee-Wee dans la journée d'hier. C'est un match entre une équipe du Kazakhstan et une équipe de Détroit durant lequel on a eu droit à une bagarre générale. On peut le dire comme ça. Là, c'est les 4-5 joueurs sur la glace qui se sont battus. Oui, oui. vous avez bien entendu, durant le tournoi Pee-wee.
Une bataille de Pee-wee.
Ouais, ben c'est ça. C'est jeune un peu là, pour se battre, on va être honnête. Puis j'ai parlé à Patrick Dome, justement, qui est directeur général du tournoi Pee-wee, puis qui m'a dit que ça fait qu'en 20 ans de présence en tant que DG, il a vu ça seulement trois fois. Donc, à la suite de la bagarre, bien sûr, on a dû sévir certains joueurs. C'est trois joueurs du Kazakhstan qui sont suspendus pour le restant du tournoi. Un joueur de l'équipe américaine de Détroit qui va être suspendu également du côté des deux équipes. On va toutefois pouvoir continuer notre tournoi par la suite sans ces joueurs-là, justement. Le maire Bruno Marchand, qui va mener une mission à Edmonton et Calgary du 16 au 20 mars prochain. Les principaux objectifs de ce déplacement, on dit du côté du cabinet du maire, c'est de s'enquérir d'exemples de gestion d'expansion de projets de transport structurant et d'échanger sur d'autres dossiers urbains. En gros, c'est surtout une mission pour voir justement comment ça se passe, ces projets de transport structurant, notamment pour le projet de tramway qui s'en vient à Québec du côté de Calgary puis Edmonton. Au total, c'est Bruno Marchand, trois membres de son cabinet et cinq autres personnes qui seront en déplacement du côté de l'Alberta. Au total, cette mission va coûter 28 800 $ à l'administration de la ville, soit une moyenne de 3 200 $ par personne pour ces neuf personnes qui s'y rendront. Et je termine avec une nouvelle qui est sortie puis qui m'a fait réagir, puis qui a fait réagir Jeff. On va en parler un peu plus tard dans le show. Mais c'est le taux de réussite des cégepiens à l'épreuve uniforme de français qui est en baisse depuis 5 ans. C'est ce que nous rapporte le journal ce matin. On est passé de 87,9% en 2019-2020 à seulement 82,9% pour l'année 2023-2029. Puis c'est vraiment une baisse constante chaque année, sauf 2020-2021 qui a comme eu une année un peu spéciale en raison de la COVID. Mais sinon, c'est une baisse de 1,5, 1 point de pourcentage à chaque année. Donc, c'est une tendance qui est quand même inquiétante au Québec actuellement.
J'ai vraiment un truc pour vous, les jeunes, qui avez de la difficulté avec la langue française, et c'est pas moi qui va vous le donner, c'est la ministre des Affaires municipales, ex-ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. C'est d'utiliser constamment la même phrase.
De ça. Je me souviens pas, j'ai pas de souvenir, c'est un peu comme l'autre page, j'ai pas de souvenir spécifique, de conversation spécifique sur une page spécifique.
Deux fois, par exemple,
j'ai aucun
trois
souvenir,
fois,
j'ai pas
de
souvenir expérientiel dans ma mémoire. Je peux pas avoir de souvenir exact, j'ai pas de souvenir plus précis. En fait, j'ai pas de souvenir précis. Mon souvenir peut être inexact, j'ai pas le souvenir. J'ai pas de souvenir de quoi que ce soit, comme j'ai pas de souvenir précis. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai pas de souvenir assez précis.
Ah, elle a un souvenir de pas avoir de souvenir.
J'ai pas abordé le sujet. J'ai pas souvenir de cet ordre.
Dans une dissertation, elle aurait perdu beaucoup de points pour souvenir dans cet extrait.
Pour la répétition, Lambert Drainville, comment ça va, mon ami?
Ça va bien, vous autres, les boys? Très content d'être en studio pour une troisième semaine d'affilée,
yes!
Quand même.
On est tellement content de te voir en studio. Tu comprendras, Lambert, que j'ai fait un lien entre la qualité de français de nos jeunes et celui de Geneviève Guilbeault, parce qu'on se souviendra de son passage à la commission Galant en septembre dernier, où elle avait à peu près souvenir de rien. Donc, ça nous amène à ce rapport qui va être déposé lundi. Ma première question, est-ce que Geneviève Guilbeault va recevoir des blâmes pour avoir, ça être souvenu de rien, mais surtout avoir usé de laxisme dans ce dossier-là?
Oui, possiblement, oui. Il va avoir une reproche faite au ministre. Voyons voir de quelle ampleur, au gouvernement plus généralement, voyons voir de quelle ampleur elle sera. Mais on s'entend que de ce à quoi on s'attend lundi prochain dans le rapport du juge Galant, c'est beaucoup plus la SAAQ et ses hauts dirigeants qui vont manger une sérieuse claque. On en a parlé un petit peu mercredi avec la présentation d'une heure et demie de Karl Malenfant qui, malgré qu'on lui reproche 48, elle, c'est comment
Attends une minute, on va écouter Karl Malenfant, ouais, des blancs, mais là, on va l'écouter à la commission Galant. Souviens-toi, il avait été étourdi.
Très. Je pense que je suis un peu étourdi. Là. Vous envoyez le 8 avril 2016 la soumission de Deloitte à votre adresse personnelle.
Ah.
Soumission de Deloitte qui est supposée être dans un bunker barré à clé.
Vous avez tout à fait raison.
Vous venez de me dire que vous n'avez pas eu accès
non.
à la soumission.
Puis, honnêtement, je suis moi-même, là. Je me souviens pas de ça. Mais je peux pas. Je peux pas...
Ouais, si je m'envoie une très grosse soumission comme ça là, pour l'analyser puis l'envoyer à mes petits amis de part de pyjama, Loulou, puis Mado, là, et normalement, j'ai des souvenirs. Hein?
Écoute-moi, je serais bien mal placé, Jeff, pour parler de souvenirs. Je suis quelqu'un qui a... N'importe qui me connaît d'un peu de près sait que je n'ai aucune mémoire. Alors, ça se peut dans la vie d'oublier les affaires. Le fameux dicton dit que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais mettons que ça fait beaucoup de monde en pas beaucoup de temps qui ont oublié beaucoup d'affaires dans toute cette saga qu'aura été les témoignages devant le juge Galant. Et donc là, lundi, on s'attend effectivement à ce que ce soit Karl Malenfant qui mange une sérieuse claque et Nathalie Tremblay, PDG, ex-PDG, qui... Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'avec sa présentation d'une heure et demie, Karl Malenfant a dévoilé beaucoup d'informations qu'il lui a reçues en primeur, mais qui doivent être... partie, en fait, du rapport final. Alors, on a quand même appris que des fonctionnaires de la SAC auraient trompé sciemment le public. Alors, c'est certain que le gros de la faute sera sur leurs épaules à eux. Puis encore une fois, la question qui va demeurer lundi, ça va être de voir quelle part dans tout ça revient au ministre et revient au gouvernement. Il y aura une part, certainement. Quelle sera-t-elle? Je pense qu'elle demeurera quand même minoritaire par rapport à la façon dont se sont comportés les dirigeants de la SAC. Tu vois, on lit dans l'article de la presse, là, elle dépasse le comportement où une organisation embellit inconsciemment le portrait de ses projets afin de se présenter en public sous un jour favorable. La preuve révèle plutôt qu'elles sont le fruit d'une action consciente visant à masquer aux parlementaires, au gouvernement et donc à la population le coût total du programme CASA et les dépassements de coûts.
Oui, exactement. Puis d'ailleurs, rappelons-nous, là, tu sais, Karl Malenfant se présente dans des rencontres avec le chef de cabinet de François Bonnardel, qui était ministre à l'époque des Transports. Et là, il présente les napperons avec des indicateurs au vert. Puis Denis Marcellet, qui est le PDG, sait que c'est pas vrai, mais il parle pas.
Ouais, exact.
Fait que là, à un moment donné, tu sais, il va avoir du blâme mis sur le gouvernement parce que je pense qu'à un moment donné, on a sûrement fait trop confiance à la SAC.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est la SAC en premier lieu qui n'a pas du tout fait son travail et même qui a essayé d'étouffer l'affaire au maximum. Là.
Exact. Et on reviendra un peu à la même, aux mêmes réflexions qu'on avait en marge des témoignages de la commission, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une plus grande imputabilité de nos hauts fonctionnaires, nos hauts dirigeants de l'État, tout ce qui touche le public, en allant de l'avant. Et ce sont, selon moi, les mêmes questions qui ressortiront du rapport présenté lundi. OK, voici le gros des responsables, les hauts fonctionnaires, les hauts dirigeants, PDG, SAQ, tout ça. Comment est-ce qu'on s'assure que ces gens-là sont plus responsables, sont plus redevables de leur travail pour la suite des choses? Je pense que ça va être la grande question. Puis je pense qu'au-delà du blâme puis de la responsabilité de tous et chacun, ce serait intéressant aussi de voir en parallèle s'il n'y aura pas des accusations.
C'est vrai.
Criminels qui vont être portés en fonction du rapport et de ce qu'on y lit. Mais oui, c'est ça. Je pense que la suite de la discussion va vraiment se faire au niveau de comment est-ce qu'on assure plus d'imputabilité chez nos hauts dirigeants. C'est inconcevable que tu en aies, comme on a vu, là, qui se trouvent une place à la SAQ, qui font un travail absolument terrible, qui se retrouvent une place quelques mois plus tard.
Denis Marcellet, pour exemple, s'est retrouvé une place comme PDG de l'Office de protection du consommateur. Ouais. Mais il a complètement foiré à ça.
Il a foiré tout ce qui touche le consommateur.
Moi, si je foire ici en onde, là, moi, tout ce qui touche le consommateur, en plus, ça n'a pas raison. Mon Dieu Seigneur, j'y avais même pas pensé.
Ouais.
Il nous a coûté 600 millions de plus aux consommateurs, mais on l'a nommé
la protection du consommateur.
OK, bonne celle-là, j'y avais jamais pensé.
C'est comme nommer un pyromane responsable du département de pompiers de ta ville.
Oui, c'est ça, exactement. Tu vas être responsable du département des incendies. Monsieur le pyromane, on pense que ça va venir diminuer les feux. Ça marche pas bien. Hey, le commissaire Denis Galant, on a appris à le connaître dans cette commission-là. On a appris à connaître son tempérament bouillant. On écoute d'ailleurs un extrait d'un passage très houleux de Jean-François Bertrand, l'avocat de Karl Malenfant à la commission Galant.
Vous ne pouvez pas intervenir.
Article 32, les droits fondamentaux.
Je vous demande de vous asseoir. Je vous demande de vous asseoir.
Mais ce n'est pas une question.
Je vous demande de vous asseoir.
Ben, je suis assis.
Vous continuez, vous répondez à la question et on arrête pour le dîner.
Donc, je n'ai pas le droit d'intervenir?
Est-ce que vous avez... Je déciderai si c'est de l'argumentation. Pour l'instant, je n'en vois pas. Votre client fait ça depuis 3 jours de l'argumentation.
Est-ce qu'il va être assassin, tu penses? sur certaines personnes, parce que tu sais, là, quand Carl Malenfant a témoigné pendant 6 jours, on s'entend, il l'a emboîté pas à peu près, là. Puis tantôt, j'ai fait jouer justement l'extrait où, oups, c'est, ouais, je suis étourdi, tu sais.
Ouais.
Il s'était gardé un droit de réserve avec les politiciens. Je pense que c'était bien aussi parce que tu sais, veux pas, avec la fonction qu'ils ont, je crois que c'était bien d'agir en conséquence. Mais penses-tu qu'il va être assassin sur certaines personnes ou sur la SAC qui va se permettre d'être très critique?
Écoute, j'ai pas la réponse à ça, ben franchement, je l'ai pas lu. Mm-hmm. Si on se fait à son style en commission, il passera pas par quatre chemins. Moi, j'écoute ça, puis je me rappelle, j'ai en mémoire quand il a été nommé. Tu sais, il y avait des liens, je pense, dans
avec Sonia
Lebel, puis des gens ont remis en question son intégrité puis sa nomination.
Il a cassé ça vite, hein, avec la façon que je gérais ça.
Il a cassé ça vite.
On n'en parle plus de ces liens-là. Là.
Non, puis si, tu sais, si je suis, je vais dire aux gens qui sont à l'écoute, tu sais, la prochaine fois que tu as un cas de même, là, où ce que. Parce qu'il semble être un calcul politique, tu remets en question une nomination comme ça d'un gars qui a une feuille de route long comme le bras. Rappelons-nous la commission Galant, tu sais, quand on entend les critiques là, de « maudit que ce gars-là, il est pas neutre », puis blablabla. Rappelons-nous Monsieur Galant, puis n'importe qui a pris une demi-journée pour écouter les témoignages durant plusieurs mois, c'était assez spectaculaire de le voir aller, puis j'ai hâte de voir si effectivement le rapport final sera aussi cinglant qu'il l'a été au courant de certains moments des témoignages. Mais je serais quand même un peu surpris. Là. Je pense que ça va être quelque chose de très square and sharp.
418-971-1021 pour interagir avec nous. Je veux savoir qui croyez-vous qui va être blâmé le plus, la CAQ ou la SAC. Donc écrivez-moi CAQ ou SAC au 418-971-1021. On est en discussion avec Lambert Drainville. Normalement, le vendredi, on fait une petite discussion Lambert Drainville, Farnell Morisset. Farnell avait un imprévu aujourd'hui, donc c'est pourquoi on est avec Lambert. Lambert, si on parle d'un jeu qui a très bien fait son travail, M. Denis Galant, avec la commission de la SAC. Oh my God, c'est tough pour le juge Fournier avec son rapport sur les libéraux.
Ouais. Ben, je sais pas si c'est tough. Je veux dire, le gars, il a fait un bon travail dans la mesure des outils puis des leviers qui étaient disponibles pour lui. Mais il a, c'est ça, il conclut qu'il ne peut confirmer ni infirmer l'existence de paiement en échange de vote. Ça fait référence évidemment à l'enquête qui avait déclenché spécifiquement au niveau des textos. Une forte probabilité que la portion du Brownies qui avait été insérée dans l'échange texto paru dans le Journal de Montréal soit en fait un montage de plusieurs messages mis ensemble. Et au niveau des prête-noms, les gens qui auraient prêté leur nom pour récolter des gains à la chefferie de Pablo, que rien n'indique là, qu'il s'agissait d'un système organisé ou connu du candidat et de son équipe, donc de Pablo et son équipe. Alors, Pablo aura partagé ce rapport-là et ses conclusions sur ses propres médias sociaux.
Oui, parce que là, évidemment, ben, ça fait plaisir à Pablo.
Ça fait plaisir à Pablo, mais en même temps, le juge Fournier qui fait le tour des médias en disant qu'il se décrit comme un chien de chasse édenté. Ouais, c'est sûr que là, un chien de chasse édenté. Moi, je suis pas un grand chasseur, là, puis j'ai pas de chien de chasse.
Ça va pas bien aller.
J'ai l'impression que si j'avais allé à la chasse, je me prendrais un chien qui a des dents.
Préférablement, mettons. Ouais, mais justement, là, est-ce que la stratégie du Parti libéral dans cette situation-là, il y a comme le juge qui dit, ouais, mon rapport, il est comme plus ou moins complet, puis j'avais pas ce qu'il fallait pour arriver avec des bonnes conclusions.
Ouais.
Le Parti libéral qui sort puis qui dit. Bon, on comprend pas pourquoi le juge dit ça. Nous autres, on trouve que c'est très fiable. C'est un peu bizarre, non?
Oui, c'est un peu bizarre. Puis j'essaierais pas de défendre le rapport si j'étais le Parti libéral.
Ouais, c'est ça. Marc Tanguay a fait une sortie boiteuse à cet effet-là. Là.
Ouais, moi, si j'étais le Parti libéral, que ce soit Marc Tanguay, que ce soit Pablo Rodriguez, que ce soit Charles Milliard, que ce soit quiconque, restez loin de ça. T'sais, laissez les rapports parler d'eux-mêmes, commentez-les quand ils sortent, mais tu sais, en termes de rigueur, puis en termes de démarche, je pense qu'ils sont très, très mal placés pour donner des réponses, des commentaires par rapport à la rigueur ou à la... Tu sais, c'est ça.
Je suis tellement d'accord
avec
toi.
Fait que bref, je laisserai ça parler... je laisserai le juge parler de lui-même, puis s'il dit des affaires qui vous plaît pas, ben vous avez toujours l'option de rien dire et de rien commenter. Je pense que c'est mieux comme ça. Moi, ce qui m'a surpris dans son rapport, je l'ai consulté vite, là, c'est la capture d'écran officielle, celle de laquelle partaient les...
Ouais, les textos de Brownies, là.
ben, qui devait avoir des brownies selon le Journal de Montréal, mais qui, quand on regarde le rapport du juge, on ne trouve pas la mention brownies comme telle. On a plusieurs des messages qui sont équivalents, qui sont la même chose que ce qu'il y avait dans le journal, mais pas totalement. La partie brownies s'y retrouve pas. Puis tu as encore une fois les échanges, là, c'est entre deux. Puis là, on est dans le spectre des spéculations, je le mentionne, parce que je veux pas m'exposer à quoi que ce soit, mais entre deux femmes, visiblement, qui s'échangent des textos, puis toi, comment tu vas avec une autre grosse semaine? I'm fed up, donc je suis fâché, mais je suis contente que la Guilbeault est dans l'eau chaude. Oui, elle est stupide, elle. Oui, mais Legault l'adore. Yes, ton ami Robitaille, en passant, a fait l'entrevue. Il a passé proche de s'échapper que tu veux traverser avec nous. Oh, où l'as-tu entendu? Sur Cube, il a dit « Elle se place dans les rangs pour l'instant. » Oh, il ne faut évidemment pas que ça sorte, mais je m'entends bien avec lui. On n'a pas la confirmation de c'est qui ces deux personnes-là. Les rumeurs qui avaient circulé, c'est que c'était entre les deux députés de Laval, une du Parti libéral et une de la CAQ, Sonia Lacoyanne et Alice Abou-Khalil. Si j'étais député de la CAQ, disons ça comme ça, parce qu'encore une fois, on n'a pas le numéro de la... on n'a pas la confirmation que c'est elle, mais disons que tu lis ça, là, puis je vois mal. Là, ça peut être qui, vraiment, qui aurait échangé ce type de texto-là?
Ouais, ouais, jaillit la Guilbeault, je suis content qu'elle soit dans l'eau chaude. François la protège. Hey, Pablo, c'est mon espoir de m'en sortir pour être réélu, parce que la CAQ, à ce moment-là, selon Québec 125, est à zéro député. À un moment donné, il y a des liens à faire.
Il y a des liens, puis si t'es député de la CAQ, puis là, t'as des textos qui, en tout cas, laissent fortement présager que t'as quelqu'un à l'intérieur de la CAQ qui vend des cartes de membre pour le Parti libéral, alors, qui est député de la CAQ et qui parle à des journalistes de façon très rapprochée, comme quoi elle envisage la possibilité de traverser dans les rangs d'un autre parti politique. Hey, je serais hors de moi si j'étais un élu caquiste.
Mais pourquoi François Legault n'a pas réagi?
Parce qu'ils n'ont pas la confirmation.
OK.
Eux autres ne peuvent pas le faire.
Ouais,
le parti,
parce que là,
c'est pas possible de
la députée a dit « ce n'est pas moi ». Donc à partir de là, ben, tu n'as pas le choix de respecter sa parole, d'accepter sa parole?
Ben, c'est que t'as pas de preuve légale pour la sortir. Il faut que t'aies une base pour... je veux dire, si t'avais des élus, des députés qui mettaient beaucoup de pression sur le parti, possiblement que ce serait possible. Mais d'abord et avant tout, madame Alice Abou-Khalil, là, je m'excuse, là, n'importe qui a fait du sport, là, t'as quelqu'un dans ton équipe qui s'acoquine avec le clan adverse, là. Moi, ce serait dehors à grands coups de pied au cul. Là. Puis, ce serait... Puis c'est franchement gênant, bien honnêtement, de sa part à elle, d'être là, d'avoir fait campagne avec des collègues, de continuer à faire son travail de député.
Puis là,
sous
de voter pour
de
le prochain ou la prochaine, la prochaine chef. Là.
Ben oui, c'est ça. Une fille qu'on n'a jamais entendu parler d'elle. Ça non. fait depuis 2022 qu'elle est élue. J'ai jamais entendu son nom, sauf dans ce cas-là. Et là, elle vend des cartes de membres pour aider à faire élire un nouveau chef au Parti libéral, nouveau chef qui a battu le record du moins long règne de toute l'histoire du Parti libéral.
Exactement.
Fait que sa feuille de route à Mme Abou-Khalil n'est pas très glorieuse, non. Et même en matière d'aider l'autre parti à se choisir un chef, ben, elle a réussi à se rentrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors, je reviens à mon point, si j'étais un élu caquiste, je serais en beau... Et ça fait longtemps que ça doit être su à l'interne que c'est elle qui est derrière ces textos-là. Je sais pas comment je...
Je répète qu'il n'y a pas de confirmation officielle que c'est elle, juste pour être sûr que...
Mais tout porte à croire que c'est elle, et je comprends pas comment elle peut, avec toute impunité, se promener dans les couloirs, participer au caucus, écouter les discussions entre ses collègues, alors qu'on a de forts doutes qu'elle fornique avec le clan ennemi.
Puis la façon qu'elle parle, en plus, ça laisse entendre qu'elle est au pouvoir juste parce qu'elle veut être au pouvoir puis avoir une job. Là.
Ah oui,
là, ça aide à augmenter le cynisme en politique de ceux qui sont déjà.
Ouais.
Elle dit « Ah, c'est mon seul espoir d'être élu. » Ça n'a pas d'air d'une fille ben accrochée à des idéaux politiques puis à être là pour les bonnes raisons. Ça a l'air de plus être... Je veux être là pour être élu puis avoir un salaire à la fin de l'année.
Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. J'ai rien à rajouter. C'est sûr qu'en matière de cynisme politique, t'as pas pire que ça. T'as pas pire que ça. Puis envoie chier sa collègue, Mme Guilbeault, au passage. Écoute, en tout cas, moi, si j'étais élu de la CAQ, je serais complètement hors de moi.
Je termine, Lambert, ton excellente chronique avec le nouveau sondage à la chefferie de la CAQ. 64% Christine Fréchette, 19% Bernard Drainville. Comment tu analyses le tout?
Ben, c'est Mme Fréchette, c'est un sondage léger, là, c'est ça, commandé par l'équipe de Mme Fréchette. Et c'est ça, chez les sympathisants de la CAQ, elle prend 5 points chez les sympathisants de la CAQ. Important de le mentionner parce que c'est eux qui vont voter au final pour le prochain chef. Plus 5 % et Bernard Drainville, lui, qui recule de 3 % L'écart est maintenant
très élevé. Là.
Ouais. Était élevé et désormais très élevé. On parle de 64 versus 19. Chez tous les électeurs, donc pas seulement les sympathisants de la CAQ, vois-tu, là, c'est Bernard Drainville qui gagne 3 % et Mme Fréchette qui perd 1 % L'écart demeure quand même très, très considérable. À Québec, Bernard prend 3 points.
Mm-hmm.
Et Mme Fréchette prend seulement 1 point. Bref, la pente demeure extrêmement à pic pour M. Drainville, qui a, encore une fois, laissé savoir sur Twitter aujourd'hui que c'est quelque chose, au contraire, qui le motive et qu'il ne va pas lâcher. Pour Mme Fréchette, tout roule comme sur des roulettes, visiblement.
Exactement.
On la comprend d'être prudente depuis le début de la course quand tu es dans une situation aussi confortable. Tu veux prendre le moins de risques possible. Si on regarde peut-être les quelques rayons de lumière... Pour Bernard Drainville, ben c'est la première fois là, depuis qu'on a des chiffres en ce qui a trait à cette course-là qu'il y a des chiffres qui vont dans le bon sens. Si on veut regarder les rayons de lumière.
Chose intéressante, c'est qu'avec cette course-là, au moins, on déterre des enjeux à la CAQ. Puis c'est le fun.
Ben,
ça amène
J'avais une question pour toi avant qu'on se laisse.
Ah, ouais, donc.
Tu préfères-tu une situation course à la chefferie du style Parti libéral, si t'avais à choisir,
la CAQ 100 000 à l'heure.
Même avec tous les enjeux que ça crée, troisième lien, les enjeux internes.
Moi, je veux qu'on en parle, des enjeux. Je veux qu'on débatte, je veux qu'on ait des visions différentes. La dernière course au Parti libéral, je me suis endormi parce qu'ils disaient toutes la même chose. Puis ils amenaient tout Pablo au sommet de la montagne.
Mais c'est parce que t'as pas bien écouté quand c'est Mario Roy qui parlait.
Ouais, 0,8% des votes.
Hey, t'as-tu vu les chiffres sur l'argent?
Oui, c'est 3 contributions, 250 $, hein?
Hey, 3 contributions, 250
$. Non, exactement.
Sérieusement, c'est... T'as juste le goût d'aller donner un câlin.
Oui.
Puis tu dis, mon gars va faire autre chose. Non, mais tu te demandes, tu sais, parce que mine de rien, il a fait perdre un mois à Charles Milliard. Tu sais, ce niaisage-là, tu sais, Charles Milliard aurait pu être déjà nommé
déjà
depuis plusieurs semaines.
Puis justement, t'es lui être à l'avant-plan et se faire connaître, là, parce que je termine là-dessus, parce que Christine Normandin, leader de la Chambre au Bloc québécois, est en attente. Mais 64%, c'est toi qui m'envoyais ça, 64% des gens ne connaissent pas Charles Milliard. Fait qu'il y a toute qu'une pente à remonter pour le Parti libéral. On en parlera la semaine prochaine, justement, compte tenu qu'il sera élu chef par acclamation ce
dimanche. Le vote francophone! Ça revient toujours à ça avec le Parti libéral. Comment vont-ils reséduire le vote francophone? Et tu prendras bien le temps de saluer Christine Normandin de ma part, avec qui j'ai travaillé quand j'ai commencé en politique. Ben oui, quand j'ai commencé en politique.
Bien ce qu'on va faire. Check bien ça ce qu'on va faire. OK, t'es prêt?
Ben oui, je suis prêt.
OK, parfait.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. Jusqu'à 14h.
Boulevard 102.1, émission On en jase. Grâce à Antonine Iaccarini, on a été promis à déterrer le Curam à 6,6 milliards. Là, il arrive François Blanchette, le chef du Bloc québécois, dit « Ça n'a pas d'allure, on veut une enquête publique. » Et on a la leader parlementaire du Bloc québécois avec nous, au bout du fil, Christine Normandin. Madame Normandin, vous allez bien?
Ça va bien, merci. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Madame Normandin, avant toute chose, je veux quand même que quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui est un excellent chroniqueur pour l'émission On en jase, vous salue. Alors, je lui laisse la parole.
Salut Christine, c'est Lambert.
Salut Lambert, comment ça va?
Ça va bien, écoute, je savais pas que nos segments se croiseraient comme ça. Je remercie Jeff de me laisser quelques secondes pour te saluer. Christine, qui est une maman parlementaire, là.
Ah,
je sais pas si t'es au courant de ça,
non,
Jeff.
Non, vas-y donc.
Ouais, ouais, c'est une strong, une femme forte et indépendante, tu vois. Avec ma collègue du Bloc, je vais faire attention à l'usage de mon anglais.
Oui.
Mais
surtout
oui.
Qu'on a un étudiant de cégep avec nous qui vient de sortir du cégep puis qui passe pas ses cours de français.
Ah non, hein, non. Wow. Je les ai passés, Jeff.
On est une belle famille.
Ben, c'est ça. Je voulais juste te saluer, Christine. Bravo pour ton travail. Bravo pour ce que tu fais comme modèle de maman sur la colline. C'est vraiment beau à voir.
Puis moi, j'ai du fun à recroiser Lambert un peu partout, là, parce que, comme on dit, on peut sortir le gars de la politique, mais on sort jamais la politique du gars.
Oh,
mais quand on se croise, il y a encore un esprit de famille qui existe. J'ai eu bien du fun à travailler avec Lambert.
Ah, je suis content d'entendre ça. Il était-tu des fois fâché sur des choses, là, parce que des fois, en nombre, il s'emporte. Là. Sur quoi il s'emportait avec vous?
Ah, Ben, nous autres, on se donnait le droit de tout se dire. Généralement, quand on était fâchés dans le même sens. Fait qu'on était capable de se craquer entre nous. Ça arrivait au moins pas trop souvent, mais ça a été un plaisir de travailler avec lui. Il est encore aussi rigoureux qu'il l'était à l'époque.
Ah, ça, il n'y a pas de doute.
Ça n'a pas changé.
On est tellement choyés à Boulevard 102.1 de l'avoir deux fois par semaine dans l'émission On en jase, franchement. C'est un collaborateur hors pair. Lambert Drainville, je te laisse partir là-dessus.
Yes, merci les boys.
Et, ça fait plaisir.
Christine, au plaisir de se recroiser bientôt.
N'importe quand.
Salut mon chum. Madame Normandin, tiens, pendant qu'on a ouvert la parenthèse, comment c'est être une maman sur la colline parlementaire? Parce que vous avez des voyages à faire à Ottawa, vous devez surveiller les choses pour nous, dont ce dépassement de coûts dans le CURAM. Comment qu'on réussit à manier le travail famille? C'est ça l'équilibre travail-famille lorsqu'on est une élue fédérale. Ouais, la conciliation.
Ben, c'est des beaux défis, puis je me suis dit, ben, tant qu'à me lancer un défi, je vais en mettre une couche de plus. Je suis la première députée qui est maman solo. Donc, j'ai eu un enfant sans conjoint avec la procréation assistée, fait que ça me fait une paire de mains pour gérer le tout. Mais ça se fait, puis j'ai le goût de dire à n'importe qui aurait le goût de faire le saut à un moment donné en politique, qui se dit, ah ouais, c'est dur avec la famille et tout. Effectivement, ça prend de l'adaptation, un peu plus de résilience, mais ça se fait, surtout quand on a une bonne équipe autour de nous. Puis là, je salue mes collègues qui sont exceptionnels. Par exemple, mon petit coco était malade cette semaine. Je l'ai traîné avec moi sur la colline parlementaire. Il y avait toujours une paire de bras pour s'occuper de lui. Même chose, j'ai fait des entrevues radio avec lui qu'on entendait gazouiller en arrière. Puis ça a visiblement pas achalé personne. J'avais même fait une entrevue radio entre deux contractions avant d'accoucher. Donc, comme quoi c'est possible, si ça peut donner à d'autres, des jeunes femmes et hommes qui sont en âge d'avoir des enfants, mais qui ont aussi le goût de faire de la politique, vous n'êtes pas obligé de mettre un de ces deux rêves-là de côté nécessairement.
Félicitations, Mme Normandin, honnêtement, pour ce que vous faites. Ça m'impressionne énormément. Je vous lève mon chapeau, puis continuez votre excellent travail. Bon, parlant de mauvais travail, cependant, c'est le Parti libéral du Canada, Ottawa, qui a causé des problèmes à 85 000 aînés qui ont du mal à recevoir leurs prestations au moment opportun. C'est un dépassement de coûts de 277% présentement. Puis là, c'est une projection pour les années 2030 et 2031 au niveau du système CURAM. Pourquoi on refuse de faire une enquête publique?
C'est une excellente question parce qu'on le demande. Puis depuis quelques semaines, on a commencé à poser des questions au gouvernement, puis les chiffres ont changé constamment. Là, au début, ils nous ont dit « Ah, vous êtes en train de faire une campagne de peur, il n'y a pas de problème avec CURAM. » Puis après ça, quelques jours après, c'est « Ah, ben il y a peut-être une trentaine de dossiers en tout et partout pour lesquels il y a eu des problèmes. » Puis après ça, on était rendu à 10 000, puis on est rendu à 85 000 de leur propre aveu. Et le dépassement de coûts, lui, à travers tout ça, ça, c'est les derniers chiffres qu'on a. C'est les chiffres du gouvernement, mais on attend quand même des mises à jour. Là, c'est en date d'aujourd'hui, on est rendu à près de 5 milliards en dépassement de coûts. Puis visiblement, ça justifie dans l'idée des libéraux qu'on nous fasse un petit brefage, là, à savoir, ben, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis comment ça se fait qu'il y a du monde qui a de la misère à avoir leur pension, puis on est rendu à 5 milliards de dépassement de coûts. Nous, justement, on dit, ben non, ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend une commission d'enquête indépendante avec les pouvoirs aussi que ça implique. Parce que, bon, nous, en Chambre, oui, on peut poser des questions, mais ça reste des échanges de 35 secondes. On peut pas aller en profondeur. On n'a pas accès à des documents non plus pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'une commission d'enquête peut le faire, peut forcer des témoignages qui vont être faits sous serment et peut envoyer des subpénas pour obtenir des documents pour qu'on comprenne vraiment bien ce qui s'est passé. Le but est évidemment de faire la lumière, mais surtout que ça ne se reproduise plus. Et on a malheureusement cette habitude-là au fédéral. Quand ça touche à de l'informatique, ça plante assez souvent. On l'a vu avec Phoenix. Mais pour ce programme-là, est-ce qu'on peut faire la lumière avant que ce soit élargi à plus grand, parce que c'est censé aussi, à terme, gérer tous les dossiers d'assurance-emploi, le programme CURAM. Donc, est-ce qu'on peut arrêter l'hémorragie avant que, finalement, on ait saigné complètement la machine, que ça coûte une beurrée et qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas les services auxquels ils ont droit?
Oui, bien, vous en avez parlé, là, puis c'est pas juste au Canada, là, on le voit au Québec aussi, des problèmes informatiques puis des dépassements de coûts dans ces projets-là. En sachant qu'il y a une problématique, là, pourquoi le Parti libéral refuse, dans ce cas-là, qu'il y ait une enquête publique? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des choses à cacher, selon vous?
Bien, au moment où on se parle, il y a quand même peut-être une ouverture à ce qu'il y en ait. Notre chef, François Blanchet, a rencontré le premier ministre cette semaine Et ça a été dans un des sujets de discussion qui a été abordé, à savoir est-ce qu'il y avait une ouverture à une enquête. Et François a dit il n'y a pas eu de oui, mais il n'y a pas eu de non. Fait on donne le loisir de croire que c'est peut-être possible qu'il y en ait une qui soit déclenchée, mais il me semble que ce serait la chose à faire, justement, si on veut montrer de la transparence. Parce que si on se bute à pas vouloir en donner une à terme, bien, monsieur, madame, tout le monde va peut-être penser qu'il y a quelque chose à cacher, effectivement, alors qu'on aurait une belle opportunité de faire la lumière. Donc, ça va être à suivre. On va continuer à le demander. C'est sûr que c'est un clou sur lequel on va continuer de taper. On ne se contentera pas d'un simple brefage ou d'apparition de ministre en comité, même si ça peut être utile. Ce ne sera pas suffisant. Donc, on va voir ce sera quoi le positionnement du gouvernement pour la suite. Et ultimement, c'est parce qu'on veut que ça se règle, ce problème-là. On veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise puis pour pas qu'on l'étende à encore plus de gens. Là. Il me semble que c'est du gros bon sens, finalement. On espère que le gouvernement va entendre raison.
Oui, parce que c'est 7,5 millions de Canadiens qui vont dépendre de ce système-là là, en bout de ligne. Joël Lightbound va être avec nous lundi prochain, donc on va lui poser la question avec plaisir. Pourquoi pas faire une enquête publique? En attendant, par contre, vous allez pouvoir le questionner le 12 mars prochain parce qu'il y a une commission parlementaire à cet effet-là.
Exactement. C'est un comité. En fait, on a plusieurs comités permanents sur la colline où on peut faire venir des témoins. Dans certains cas, on peut convoquer des ministres. Donc, les libéraux ont accepté que les ministres témoignent. Et ça peut être utile dans certains cas, mais comme je disais, on ne peut pas non plus faire toute la lumière avec la présence des ministres. Ils peuvent nous expliquer qu'est-ce qui se passe présentement, quelles sont, par exemple, les différentes directives qui sont données pour essayer de régler le problème. Est-ce qu'il y a eu des embauches supplémentaires de fonctionnaires? Mais si on veut aller vraiment au tout début là, de la mise en œuvre du programme, ben, des fois, le ministre ne peut pas répondre à ça. Il n'était pas là. Je donne un exemple. Au mois de juin, des fonctionnaires ont reçu une directive de ne pas dire aux gens que leur problème était lié à Curam. Ben, on veut avoir les gens qui étaient en poste à ce moment-là. Il y a eu des petits changements quand même au niveau de certains ministères depuis. Et si on remonte à avant ça, au moment de la mise en œuvre du programme, est-ce qu'on savait déjà qu'il allait avoir des problèmes qui allaient coûter cher? Comment on a évalué le coût aussi de mise en œuvre du programme pour se rendre compte finalement qu'on l'a dépassé à quasiment trois fois le coût initial? Mais ça prend tous les acteurs. Donc, les ministres peuvent avoir certaines parties de la réponse, mais pas toutes. Nous, on veut une vision à 360 du dossier. Et ça, il n'y a à peu près qu'une enquête publique indépendante, une commission d'enquête qui va pouvoir le permettre, comme on a fait avec SACLIC, pour beaucoup moins. Il y a des ministres qui ont démissionné pour un dossier pour des dépassements de coûts de 500 millions. Et là, on est à 500 milliards, il me semble que ça... À 5 milliards.
5 milliards, oui, non, c'est ça. Non, amenez-nous pas à 500 milliards, s'il vous plaît, Mme Normandin. Oui, puis d'autant plus que faut se poser la question aussi, puis c'est le même principe avec SACLIC qu'avec Curam. Pourquoi qu'on l'a mise en œuvre? Parce que dans un sondage réalisé par le syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada, 80% des employés disent hey, « Écoute, quotidiennement, je rencontre des problèmes avec le système. » Fait que ça se demandait pourquoi quelqu'un prend la décision de « OK, on passe au système Curam. »
Ben moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi le gouvernement, encore une fois, a ignoré l'avis de ses fonctionnaires qui criaient, là, qui avaient vraiment tiré la sonnette d'alarme sur ce programme-là. Pourquoi on a décidé de foncer dans le mur en voyant que c'est ça qui allait arriver, là, qu'on allait foncer dans le mur? Et surtout, pourquoi on a donné une directive aux fonctionnaires de faire comme si tout allait bien et de ne pas aviser la population que le problème, c'était le logiciel informatique. Là. Il y a vraiment des directives. On a finalement demandé aux fonctionnaires de mentir. On veut savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait à cacher à ce moment-là? Puis pourquoi on n'a pas ajusté le tir au lieu de se dire, ben, il y a un problème, on va y faire face, puis on va le régler. Donc, à force de remettre de la poussière en dessous du tapis, ben, le tapis, il y a bien des bosses dedans, puis tout le monde s'en farge.
Présentement, on a un dossier SACLIC au Québec, puis la commission Galant va justement sortir lundi prochain, le rapport Galant. J'ai une question pour vous, parce qu'on voit des dépassements de coûts puis des décisions de politiciens, puis parfois même, je vais dire, des ordres qui sont donnés aux fonctionnaires qui sont très questionnables. Est-ce qu'il manque d'imputabilité envers nos élus présentement dans des dossiers de ce type-là?
Ben moi, c'est sûr que je peux pas vous répondre autre chose que oui, puis... Souvent, quand ça arrive, ben on fait démissionner un ministre, puis finalement, ben, après ça, ce ministre-là n'a plus besoin de répondre, puis il y a un autre ministre qui arrive, qui dit oh, ben moi, j'étais pas là, je peux pas. C'est facile de se laver les mains de la responsabilité, malheureusement. Puis on le voit des fois aussi avec des créations d'agences plutôt que de maintenir une expertise interne à même des ministères avec des fonctionnaires compétents. Là, on se met un
Je vois vraiment pas ce que vous dites. Santé Québec est une réussite.
On a tendance à pas commenter sur ce qui se passe à Québec, mais, mais quand on entend parler d'agence ici au fédéral, on se pose généralement cette question-là. Est-ce que c'est une façon de créer une distance entre un ministère et sa responsabilité? Donc oui, c'est toujours un enjeu, l'imputabilité, parce que ça donne l'impression qu'il n'y en a pas quand on voit justement ce genre de dépassement de coûts. Et c'est ça les questions que je posais aujourd'hui en chambre. Mais vous dépensez l'argent comme de l'eau en vous disant ben de toute façon il y a personne qui va nous demander de compte. Non, il faut qu'il y ait une reddition de compte. Puis si on n'a pas de commission d'enquête publique, j'ai l'impression que peut-être qu'on va rater une occasion de voir qui a posé des gestes qui étaient répréhensibles, qui a pris de mauvaises décisions. Puis si on fait pas ce travail-là maintenant, ben ça va peut-être envoyer le signal finalement que dans le futur, c'est pas si grave que ça s'il y a des problèmes, puis que s'il y a des dépassements de coûts de l'ordre de 277%.
Christine Normandin, leader à la Chambre pour le Bloc québécois. Merci beaucoup, Mme Normandin, d'avoir pris le temps avec nous pour nous démêler dans ce dossier. Soyez assurés qu'on va faire suivre les questions à Joël Lightbound lundi avec plaisir, parce que ça prend une enquête publique, il n'y a pas de doute là-dessus, avec des dépassements de coûts de 277% puis un 6,6 milliards. Là. On est rendu un peu trop élevé à mon goût.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Christine Normandin, leader pour le Bloc québécois. Ça fait plein de sens que le Bloc québécois demande dans ce dossier-là.
Puis, quelle manque... Moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça. Ça a beaucoup de sens que le Bloc demande. Quel manque de responsabilité de la part du gouvernement fédéral présentement de refuser une enquête publique.
Ben oui.
C'est un problème flagrant. C'est un problème qu'on voit au fédéral. C'est un problème qu'on voit au provincial. Lorsqu'on a des transformations numériques, il y a des dépassements de coûts de milliards de dollars, puis c'est contribuable qui paye ça. En tant que gouvernement fédéral, tu as une responsabilité. Puis dans cette responsabilité-là, ça doit être de voir le problème, en prendre compte puis dire, effectivement, on a un problème, on a besoin d'enquête pour régler ce problème-là, faire mieux à l'avenir.
En plein ça, c'est de faire mieux, c'est pas nécessairement... Bien, il y a deux choses. T'sais, s'il y a des coupables, comme on va avoir dans la commission Galant, faut que ça soit ressorti. T'es calme à l'enfant, fallait que ça soit discuté. Mais c'est surtout, moi, ces commissions d'enquête-là, ce que je veux surtout, puis c'est ce que je vais vérifier dans le rapport Galant, c'est qu'est-ce qu'on propose pour le futur? Est-ce que ça va être tabletté ou mis en place?
De ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Exactement, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Là, dans le cas du système, au niveau du fédéral, le système CURAM, on a commencé à s'attaquer aux pensions de vieillesse. Et là, ça va être l'assurance-emploi. Mais là, avec les pensions de vieillesse, c'est 85 000 ratés pour des gens qui attendent leur pension. Des gens, souvent, on en parle, hein, les personnes aînées, malheureusement, qui ont juste la pension de vieillesse, bien, ils vivent sous le seuil de la pauvreté. Fait que des gens défavorisés, qu'on leur rend même pas, qu'on leur donne même pas leur pension, ça a été le même principe pour Phoenix, où des gens qui avaient besoin de leur salaire ont même pas eu leur salaire. Donc, faut vraiment voir à ce qu'on fasse mieux, parce que échec à Phoenix, échec à CURAM, on peut pas avoir un autre échec après. Faux. Réussir à un moment donné au niveau informatique. Circulation, Matt?
Oui, présentement, juste vous dire, il y a un incident sur Charest en direction ouest à hauteur de rue Franck-Carré, la voie de centre qui est présentement bloquée. Également, on a quelques ralentissements qui commencent à se créer dans la circulation. Bien sûr, c'est vendredi. Capitale direction est, c'est à hauteur de Robert Bourassa. Présentement, c'est entre Pierre Bertrand. Ça remonte un peu après Robert Bourassa, le ralentissement. Capitale direction ouest, cette fois-ci, c'est à hauteur de Laurentienne que c'est au rouge, si vous avez des informations. 418-971-1021.
Dans un instant, on parle de la non-transparence de Bruno Marchand dans le dossier du tramway. On n'informe personne et on fait plein de travaux. On va vous parler du cas des arbres sur le boulevard René-Lévesque et du conseil de quartier Montcalm. En attendant, 418-971-1021, si vous voulez m'écrire. Tantôt, vous étiez à 100% en disant « ça va être la SAC qui va être blâmée ». C'est quoi le pire? Un Saclic à 1,1 milliard ou un CURAM à 6,6 milliards? Écrivez-moi 418-971-1021.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Il est précisément 12h51, vous êtes à l'écoute de l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Je vous rappelle notre très, 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 très gros lundi. Soyez à l'écoute des midi. Analyse complète par Antonine Iaccarini dans le caucus du rapport de la commission Galant sur le scandale Saclic. Joël Lightbound va venir s'asseoir avec nous aux alentours de 12h10. On va parler du scandale CURAM qu'on vient de parler avec Christine Normandin, leader du Bloc québécois. Ça va se retrouver sur le blvd.fm. Et Moncef Déragie, leader parlementaire pour le Parti libéral du Québec, va venir s'asseoir avec nous en studio à la fin de l'émission pour justement commenter le rapport Galant. Alors, ça sera un très, très, très gros lundi avec des invités de marque. Soyez à l'écoute, comme vous l'avez été lors de la démission de François Legault. Puis je me permets justement de vous dire que vous pouvez nous écouter via l'application BLVD 102.1 FM. On a battu des records, Mathias, de streaming quand François Legault a démissionné dans notre émission. C'est signe que vous nous avez adopté pour tout ce qui est analyse politique et c'est exactement ce qu'on va faire lundi à l'émission On en jase à compter de midi. Et c'est chaque jour du lundi au vendredi de midi à 14h. À la météo, très belle journée à l'heure actuelle, c'est moins 6 généralement ensoleillé. Là, Mathias, écoute ça. Saint-Valentin demain, moins 4 degrés, quelques averses de neige et moins 4 ensoleillés pour dimanche. Fait que ça veut dire qu'il va faire beau aussi en soirée et dans la nuit de samedi à dimanche. Puis ça tombe bien parce qu'il y a quelque chose de fantastique qui se produit samedi soir pour la Saint-Valentin. Vous avez une petite famille, vous voulez fêter ça avec les enfants? Quoi de mieux que le défilé du Carnaval de Québec en collaboration avec l'Auto-Québec? C'est la magie du défilé de nuit avec Bonhomme au cœur de l'action. Et c'est gratuit. C'est près de 300 artistes, danseurs et musiciens qui enflammeront les rues dans une ambiance carnavalesque unique. Pour vivre l'expérience complète, procurez-vous l'expérience privilège, place dans les gradins, trompette du carnaval et consommation gratuite jusqu'au passage du défilé. Ça s'achète où? Au carnaval.qc.ca. Pour l'itinéraire complet du défilé qui se retrouve là également, c'est le défilé de la Haute-Ville. Ça se passe samedi le 14 février à compter de 19h. Ça va être une soirée parfaite et magnifique de Saint-Valentin.
Puis profitez de la belle température. Ça fait tellement de semaines qu'on jette dehors que pouvoir sortir dehors sans avoir des enjeux, ça va faire du bien. Hein?
Exactement. Accident, Mathias, je crois, hein, sur la route à la circulation.
Oui, selon les informations qu'on a reçues par texto, ce serait un incident sur Henri IV en direction nord, là, dans la sortie pour Wilfrid Hamel. Si vous avez des informations, 88-971-1021. Je vous rappelle en même temps que la capitale direction ouest, présentement, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne, léger ralentissement. Capitale direction est, c'est à hauteur de Robert Bourassa. À ça que c'est au rouge, si vous avez quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021.
Bon, Mathias, pour le prochain 6-7 minutes, je laisse mon good vibes only de côté parce que je suis fâché. Je suis fâché.
Tu déchires ta chemise.
Ouais, mais je suis fâché. Mais c'est vrai que je suis fâché. Je suis fâché après le maire Marchand parce que le maire Marchand, sur nos ondes, dans son entrevue avec Denis Gravel, dans le retour de Gravel, a dit « Ne vous inquiétez pas, pour les travaux du tramway, je vais le jouer en toute transparence. » Il y a deux semaines, ici, à l'émission On en jase, on parle avec Marie Langlois, la directrice générale de la Société de développement commercial de Montcalm. Elle nous dit « J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je sais qu'il va y avoir des travaux. Il va-tu avoir du stationnement enlevé? Les travaux, c'est quel échéancier? Ça va être quoi? J'ai aucune idée, puis je viens de rencontrer la ville. » Donc, moi, pour moi, c'est un grand manque de transparence. Hier, sur le site de Radio-Canada, en passant, il y a deux journalistes, tu les connais sur le terrain aussi, Olivier Lemieux et Louise Boisvert, oui, de Radio-Canada. C'est des gens sur le beat. C'est deux journalistes extraordinaires. Louise Boisvert sort hier en fin de journée, en début de soirée. « Hey! Les 1500 arbres sur René Lévesque qui vont être coupés, bien, savez-vous quoi? » Ça va être coupé tout de suite au printemps cet été, même si on est dans les travaux préparatoires. Là, je me dis, ben voyons, ça n'a pas de sens. Comment ça, on est en train de couper ça? On coupe 5 acres de terrain d'arbres pour la montée Mendez. Ça correspond à peu près à 62 terrains de football. On s'entend, un terrain de football, c'est très, très, très... c'est énorme. Ça va être 62. Là, je me dis, voyons, je pensais pas que les travaux préparatoires allaient aller comme ça. Donc, je me suis dit, ben le maire Marchand, il a dit, je vais être transparent. Ben, je vais aller parler avec Mathis Gagnon, qui est le président du comité de citoyens de Montcalm. J'imagine que lui, il sait que les arbres vont être coupés. Voici ce qu'il m'a dit aujourd'hui en entrevue.
Exactement, on a principalement parlé de la 805. Exactement, on a principalement parlé de...
Il y a un problème d'extrait. Bon.
Il y a un petit problème.
Bref, Mathis, ce qu'il me disait, c'est que ils ont parlé du 805. Ils ont parlé du métrobus, ils ont parlé des travaux, mais la ville, il n'a jamais parlé de la coupe des arbres.
On ne veut pas s'en vanter.
Non, on n'a jamais parlé de ça. On l'a inséré dans le document, tu sais, comme un petit caractère dans le bas, là.
Oui.
C'est ça qu'on a fait du côté de la ville de Québec. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il est arrivé que Mathis, il l'a appris par Louise Boisvert hier que les arbres allaient être coupés.
Il l'a appris à travers l'entremise du journal.
Exactement.
Parce qu'on lui a pas annoncé. Puis t'es là, je veux dire, on dit qu'on va avoir une bonne communication. On dit qu'on va dire des informations. Mais est-ce qu'au final, ce qu'on voit présentement, c'est on sélectionne les informations qu'on dit? Ouais. Couper 1500 arbres sur une rue, ça va se voir pour les citoyens.
Puis Raymond Poirier? Ah, regardons ça, c'est le responsable des relations avec les citoyens pour le projet Tramcité. Ça fait pas son travail, lui?
Ben, j'ai envie de te dire, on a mis une personne pour communication avec les commerçants, une personne pour des communications avec les citoyens. Selon moi, présentement, on fait un sondage auprès des citoyens qui vont être dans la section des travaux, puis un sondage auprès des commerçants, puis on nomme ces deux noms-là. Selon moi, ils savent même pas c'est qui.
Je sais pas si mon deuxième extrait va marcher, parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement, mais bref, on écoute Mathis Gagnon par rapport à ses demandes à la Ville de Québec.
Bien, c'est d'avoir des informations sur l'ampleur du projet, sur le nombre de noms, puis tout. Mais j'imagine que ça va être des choses aussi qui vont se développer là, avec le comité de bon voisinage. Là.
Hey, on envoie nos demandes. On dit, écoute, j'aimerais ça être informé sur l'échéancier des travaux. J'aimerais ça être informé sur les arbres. J'aimerais ça être informé sur ça va être quoi les désagréments. Et on reçoit un accusé de réception. Mais le maire Marchand, là, les travaux vont commencer au printemps, vont commencer fin mars. Là. On est rendu à la fin, milieu février, 14 février, faut que je sois, c'est la Saint-Valentin demain. Faut que je sois correct. Mais c'est un accusé de réception. Hey, sais-tu prendre le monde pour dévaler? Sais-tu pas prendre soin de ses citoyens, ça? Un petit accusé de réception, puis oublie ça.
Puis j'ai envie de te faire un parallèle. On parle d'accusés de réception pour des demandes de la part de citoyens quand on dit que la communication va être A+, qu'on met beaucoup d'efforts dessus. On retourne du côté du déneigement. Les citoyens se plaignent du déneigement. Les citoyens disent que le déneigement, ça va pas bien cette année. On envoie des plaintes. Du côté d'administration Marchand, on dit qu'on prend ça au sérieux. On répond pas. Il y a eu plusieurs textos d'auditeurs qui ont envoyé des plaintes
ben oui.
Puis qu'on répondait pas. Puis lorsque le maire a été challengé sur ça, on dit « Ah, ben voyons, c'est inacceptable, on va s'assurer que ça soit fait. » Mais là, c'est parce que ça commence à faire beaucoup de dossiers qu'on voit des citoyens faire des demandes aux villes, faire des plaintes à la ville. Puis c'est silence radio par la suite.
Ouais, puis pendant ce temps-là, ben Bruno Marchand, lui, il gère le provincial puis l'immigration.
Je veux dire, à un moment, c'est bien beau dire des mots, c'est bien beau dire on va avoir la meilleure des communications, on va avoir la meilleure des transparences, ouais. Mais c'est les actions qui comptent ben, à la fin de la journée.
Fait que là, je me suis dit, parce que étant bon joueur, je me suis dit, bah, je vais encore laisser une chance au maire Marchand et à son administration. Ils doivent quand même avoir consulté la population.
N'a pas eu lieu avec les citoyens. Elle a eu lieu en 2022, mais avec la nouvelle mouture, ça n'a pas eu lieu. Il y a une consultation qui est faite avec le conseil des quartiers, donc on est capable de représenter, là, bien sûr, les citoyens. Mais tu sais, on n'est pas capable de toucher à tous les sujets là, durant ces rencontres-là, nécessairement. T'sais, on représente pas toutes les idées de tous les citoyens. On est 10. Là.
Mathias, 15 juin 2024, ça, c'est la caisse de dépôt qui dépose le projet Tramcité. On est rendu au 14 février 2026. 20 mois plus tard, on n'a même pas consulté les citoyens, puis les pépines, les chainsaws pour couper les arbres, tout ça arrive dans un mois dans le quartier Montcalm. Quel manque de considération.
Puis, Jeff, je t'en parlais avant, puis moi, il faut que je le dise. Moi, qu'on coupe des arbres, puis ça va sonner très froid puis malheureux, mais ça fait partie du projet.
Oui,
moi,
ça,
quand
je suis d'accord
on fait
avec toi.
Des gros projets, c'est malheureux, mais il va falloir qu'il y ait du réaménagement de fait, puis couper des arbres, ça en fait partie. Si on fait un troisième lien, puis on coupe des arbres, je vais pas pleurer pour les arbres qu'on coupe, fait que je vais pas pleurer pour les arbres qu'on va couper pour le tramway non plus. Par contre, ce qu'on va dénoncer, c'est le fait qu'on fasse sans avertir les citoyens, pendant qu'on dit qu'on va avoir la meilleure communication qu'on a vue depuis des années. La transparence va être exceptionnelle. Mm-hmm. Puis les citoyens apprennent que leurs arbres vont être coupés dans un mois à travers Radio-Canada.
Exactement. C'est pas la meilleure communication, c'est la pire communication. Est-ce qu'on voudrait cacher ceci, Mathias?
Pensez juste au tramway de Québec. En 2007, ça coûtait évalué à 750 millions. On est à 13 milliards aujourd'hui. Hey. C'est 18 fois le coût. 18 fois le coût qui est payé par le contribuable. Juste en 2018-2026, C'est 4 fois le coût.
Y a-tu dit 13 milliards?
Je pensais que c'était 7,6.
C'est Steve Lavoie, ça, le député de Beauport-Limoilou pour le Parti libéral du Canada. Il a dit 13 milliards. On est en train de couper les arbres sur René Lévesque, de couper l'équivalent de 62 terrains de football à la montée Mendez pour que quand le 13 milliards va sortir public par la Caisse de dépôt en 2027, on dise « on peut plus reculer ».
Mais on espère que non, je vais être honnête. Il y a plein de théories sur ça. On nous cache des choses, on a des coups qu'on sait pas. Moi, je pense que Steve Lavoie, il était juste vraiment m'aider puis il s'est trompé. C'est ça ma théorie. Puis
ouais.
Peut-être que je suis un peu optimiste, mais on va espérer que ce soit pas 13 milliards parce que, effectivement, si on a des coups de 13 milliards qui sont cachés, ben dans ce cas-ci, peut-être qu'effectivement, on essaye d'accélérer les travaux pour qu'on puisse plus reculer si ces coups-là sortent.
Ouais. Anonyme d'une personne qui travaille sur les travaux du tramway. J'ai commencé à déplacer les infras en septembre 2019 sur la route de l'église. Il ne faut jamais dire que c'est pour le tramway. Et même aujourd'hui, tout ce que l'on fait, on a le mot d'ordre de rien dire
ben
si
voyons.
Un citoyen nous interroge.
Ça, c'est de la transparence, hein?
Ouais, transparence. Parler aux gens. Là, il y a un petit voyage en Alberta, 16 au 20 mars pour le maire Marchand. Il veut aller voir les bonnes pratiques Edmonton-Calgary. Prenez un cours de communication, les amis, parce que ça ne va vraiment pas bien. C'est catastrophique ce qui se passe à l'heure actuelle.
Oui, puis il va falloir qu'il y ait, selon moi, une remise de documents clairs sur quelles sont les répercussions positives de ce voyage-là.
Oh, que oui.
On l'a dit du côté de l'administration Marchand, on prône la transparence parce que c'est un voyage pour 9 personnes qui va coûter 28 800 $, 3 200 $ par personne. Il va falloir qu'on voie des répercussions concrètes d'un voyage de ce type-là.
Oui, puis d'ailleurs, Mathias, je pense que moi et toi, on va se mettre ensemble pour faire une demande d'accès à l'information pour avoir les coûts du voyage puis voir c'est quoi les dépenses.
Bien, hâte de voir
puis
ça.
Puis après ça, les bénéfices. Qu'est-ce que t'en penses? On fait ça?
100% d'accord.
Excellent. Dans un instant, Boulevard 102.1. Oh, on va changer d'idée positivement. Chronique Jeux olympiques avec Alex Laramé. 15h10. Es-tu énervé, Mathias? C'est le deuxième match d'équipe Canada masculine contre la Suisse. Hier, une victoire de 5-0 contre les Tchèques.
Ça commence bien la fin de semaine.
OK, oui. Dans un instant, Boulevard 102.1, l'émission d'En Jazz.
En Jazz. À Boulevard 102.1. Jusqu'à 14h, on en jazz.
Boulevard 102.1.
Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
13h10, l'émission d'En Jazz qui se termine à 14h. Par la suite, c'est le retour de Gravel de 14 à 18h. Ça sera un spécial Saint-Valentin. Apparemment qu'il y aura de l'amour, demande de mariage.
Oh.
En tout cas, bref, plein d'affaires de même. Donc, c'est la petite pinchot qui va se marier. C'est pas, hein?
Tu parles des fausses rumeurs, là, Jeff.
Ma joke a fait rire jusqu'à Montréal. Alex Laramé qui est en attente pour la chronique Jeux olympiques. Et également, manquez pas à 17h02, justement, le segment Québec-Montréal avec Richard Martineau et Denis Gravel. Toujours très, très, très intéressant. Je vous le rappelle, 418-971-1021 pour nous joindre. Donnez vos commentaires. Vous avez été plusieurs à donner vos commentaires sur le maire Marchand et son manque de transparence. Il y a un auditeur qui nous a écrit de vous surpris. Mais malheureusement, non. C'est ça qui est plate, Caroline Debine. Maire Marchand, ben de la misère à nous donner l'information exacte. Christian qui écrit, coudonc, c'est-tu Véro qui va se marier? Ah, peut-être, on ne sait pas. Véro est en amour.
Il est en amour, c'est ainsi. Mais on ne va pas partir des fausses rumeurs non plus. Là.
Exactement. BLVD.fm, c'est pour nous écouter via la web radio, également pour aller réécouter les meilleurs moments, notamment la chronique de Lambert Drinville qui va s'y retrouver. L'application Boulevard, disponible sur App Store, Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM et abonnez-vous à notre page YouTube. Vous avez plein de contenus exclusifs. Mathias, circulation et après ça, breaking news. Élection dans Terrebonne qui est annulée.
Oui, je commence en circulation. Là, présentement, c'est capitale direction est à hauteur de boulevard Pierre-Bertrand. La voie de droite qui est présentement partiellement entravée en raison d'un accident sur place. Également, Dufresne-Montmorency en direction ouest après le boulevard des Chutes. Il y a présentement des débris dans la voie de droite et la voie du centre. Côté ralentissement, ça se passe entre... c'est sur Capitale, direction Est, c'est entre Pierre-Bertrand présentement, puis boulevard Neuvial, et sur Capitale, direction Est, à hauteur de Laurentienne. Si vous avez des informations, 88-971-1021. Breaking news, oui, tu l'as dit, c'est la Cour suprême qui a annulé l'élection dans la circonscription de Terrebonne. Une élection partielle devra donc être déclenchée dans la circonscription. Là, la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés, qui contestait le résultat électoral, elle avait perdu par une seule voix contre la libérale Tatiana Auguste. Puis on s'en souvient, il y avait une erreur de code postal qui avait empêché le vote d'une électrice de Terrebonne qui voulait voter pour le Bloc, justement. Fait que faites un plus un, y a, les libéraux ont gagné par un vote, il y a un vote qui aurait dû se rendre, qui ne s'est pas rendu. La Cour supérieure avait maintenu, justement, le résultat malgré cette irrégularité-là. Du côté de la Cour suprême, on a tranché, on a dit il devrait avoir une élection partielle. Puis, ça va être une élection intéressante à suivre parce que le Parti libéral, présentement, tente d'aller chercher de plus en plus de députés pour avoir une potentielle majorité. Donc, si cette élection-là fait en sorte que les libéraux perdent un député, eh bien, ça rebrasse complètement les cartes présentement à la Chambre des communes. Je vous transporte du côté du tournoi Pee-Wee. On a eu une situation quand même assez inhabituelle hier lors d'un match entre deux équipes. On parle d'une équipe du Kazakhstan et une équipe américaine de Détroit. Il y a eu une bagarre générale sur la patinoire. En fait, on parle d'une bagarre entre les cinq joueurs qui étaient présents sur la glace à ce moment-là. Trois joueurs du Kazakhstan, des petits Pee-Wee, des petits Pee-Wee se sont battus. Trois joueurs du Kazakhstan qui sont suspendus pour le restant du tournoi. Un joueur du côté de l'équipe américaine. Du côté d'organisation du tournoi, on dit que c'est très rare. Là, au cours des 20 dernières années, on a vu une situation de ce genre seulement trois fois. Voilà. Et je termine avec le maire Bruno Marchand qui va partir en voyage, en fait, plus précisément en mission quand même.
Oui,
là, on
mission.
Va utiliser le bon terme.
Mission, ce n'est pas un voyage, Mathias. Non, de toute façon, c'est vraiment une mission parce qu'on est de Edmonton, Calgary.
Oui, 16...
Sinon, il aurait choisi la Finlande, la Norvège.
Un peu plus exotique. Hein.
Oui.
Du 16 au 20 mars prochain, c'est une délégation de Québec dont fera partie le maire Marchand et 8 autres personnes qui se rendra en Alberta. Le but précis de cette mission-là, c'est surtout d'apprendre la gestion de projets de transport structurant, notamment pour l'arrivée du tramway, bien sûr, à Québec, qui se fera au cours que les projets débutent, que les travaux débutent et que l'arrivée se fera pour 2033 normalement. Ce séjour qui coûtera 28 800 $ à la ville au total pour les 9 personnes, soit une moyenne de 3 200 $ par personne.
À l'occasion du tournoi Pee-Wee international d'hockey Pee-Wee de Québec, il va avoir vraiment un événement super cool pour la première fois. C'est à Place Fleur-de-Lys qui vous invite à son FDL Fest annuel cette année sous le thème du mini-hockey de l'ambiance d'aréna. C'est les 14 et 15 février, donc c'est ça, week-end de 13h à 16h. Venez vivre une expérience festive en famille avec du mini-hockey, une patinoire gonflable, du air hockey, du hockey sur table et même du ski intérieur avec pré-ski. Hey, j'ai déjà essayé ça, pré-ski, c'est vraiment hot. Tu fais du ski sur une surface synthétique, mais tu as vraiment l'impression de faire du ski et tu peux vraiment pratiquer tes mouvements.
C'est... Genre du ski de descente?
Oui, c'est une petite descente qu'il y a, puis, mais c'est, ça sert surtout à pratiquer tes mouvements, tes virages, bien balancer.
La technique, okay.
Ouais, la technique, j'avais vraiment adoré, ça avait amélioré mon ski. Plusieurs prix seront à gagner, dont des billets pour aller voir Disney on Ice, des abonnements pour la saison hivernale au centre de jeux d'hiver Valcartier, des cartes cadeaux à dépenser à Fleur-de-Lys, et plus encore. En plus, il va y avoir des rabais exclusifs pour l'événement. Les 500 premiers joueurs repartiront aussi avec des mini-bâtons Trudel. Profitez-en pour venir nous voir samedi le 14 février. Notre escouade sera sur place avec jeux et animations. Les FDL Fest, c'est le rendez-vous familial à ne pas manquer à Place Fleur-de-Lys. Déplacez-vous en grand nombre. Tant qu'à aller au centre Vidéotron, Place Fleur-de-Lys, c'est juste à côté. Allez jouer avec les enfants à ce festival de mini-hockey et vous allez avoir bien du plaisir. Parlant de sport, parlant de plaisir, on s'en va rejoindre l'excellent chroniqueur sportif et animateur au 99.5 Montréal, Alex Laramé. Alex, comment vas-tu?
En pleine forme, vous autres, les gars.
Ça va super bien. Ça va pas bien pour le Canada, par exemple. Ouf, une journée difficile aux Olympiques. On attend encore notre première médaille d'or.
Ben oui, je pense que la grande déception est venue hier après-midi dans le patinage de vitesse. On avait William Dengenou, qui était un bel espoir, justement, pour aller chercher la plus haute marche du podium. Il avait vraiment déclassé tout le monde dans des quarts de finale, les demi-finales. Il arrive en finale, il a mené pratiquement toute la course, puis finalement, à la fin, il semble manquer de jus.
Ouais.
Il se fait dépasser, finalement, termine quatrième. Honnêtement, celle-là a laissé un goût amer. Félix Roussel aussi, qui chute en demi-finale, ne peut pas participer à la finale. Donc, on a échappé des médailles d'or de ce côté-là. Puis ce matin, je pense que c'était tout simplement pas des compétitions. On avait vraiment des chances. Le Canada n'a pas très bien performé. Là, donc, ça va être difficile pour une médaille aujourd'hui.
Avant de parler hockey, parce que les Gosses jouent cet après-midi 15h10 contre la Suisse, dis-nous ce week-end, est-ce qu'on a des espoirs de médaille? Qu'est-ce que je dois suivre? Parce que moi, je me lève le matin, je mets à TV aux Jeux olympiques, puis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de Jeux olympiques, j'aurai bien de la misère à décrocher de devant TV.
Ben, je pense que nos deux meilleurs espoirs de médaille en fin de semaine, c'est samedi, du côté du patinage de vitesse 1500 mètres en courte piste. Encore une fois, les mêmes noms que je viens de parler, William Dangenoux, Félix Roussel, Steven Dubois aussi, qui avait chuté même en qualification. Lui va revenir. Lui aussi, c'est un bel espoir. Un gars de Terrebonne. Hein? Moi aussi, je viens de Terrebonne. Donc, j'ai même joué au soccer.
Ah oui, c'est donc meilleur. Ça veut dire que tu vas aller voter puis tu as joué au soccer avec lui. Est-ce que c'était un athlète remarquable au soccer? Normalement, les gars ou les filles qui vont aux Jeux olympiques sont quand même des bons athlètes en général.
Je pense qu'il a fait un bon choix à aller en courte piste. Là, il était pas mauvais, mais je me rappelle pas qu'il était un joueur exceptionnel. Là, mais en tout cas, j'ai joué un été avec lui, mais bref, lui aussi, ça va être un bel espoir de médaille en patinage de vitesse. Sinon, ça va être vraiment les dimanches, boss en parallèle chez les hommes. Kingsbury, évidemment, qui va participer à cette épreuve-là. On le sait, il a gagné l'argent. Lui aussi, c'était un bel espoir pour la médaille d'or. Il a échappé. Ouais. En fait, pour des questions techniques, il a fait le même score que l'autre. Donc, je pense que c'est pas mal nos espoirs de médaille. En fait, semaine aussi, patinage de vitesse chez les femmes. Courtney Sarrow, qui a déjà deux médailles à ses jeux, va tenter d'aller chercher une troisième dans le relais par équipe. Donc, d'après moi, on risque d'en ajouter en fin de semaine, mais pour aujourd'hui, là, ça va être tranquille.
Parlons de nos boys au hockey sur glace. Team Canada, hier, une performance éclatante, 5-0 contre la Tchéquie. Et là, après le match, Alex, John Cooper a réglé le cas des gardiens de but. Il a dit « Mon choix est fait depuis la finale de la Coupe des Quatre Nations l'an passé quand on a gagné avec Jordan Binnington. » Donc, ce soir, ça va être Logan Thompson, mais après ça, ça va être Binnington all the way. Puis, sais-tu quoi? J'ai confiance en notre gardien de but.
Ben, moi, je pense qu'avec une équipe comme Team Canada, t'sais, le gardien de but a simplement besoin d'être un gars justement qui est solide dans les grands moments. Puis c'est ça que Binnington a prouvé. Il a gagné la Coupe Stanley, il a gagné la confrontation des quatre nations, là, commence le tournoi avec un blanchissage. Bon, faut dire que la République tchèque, là, on les a dominés. Là. Mais quand même, tu as simplement d'avoir besoin de quelqu'un qui donne confiance à son équipe. Visiblement, il y a la confiance du coach, il y a la confiance des joueurs. Donc, on va aller de l'avant avec lui. Il est habitué dans les grands moments parce qu'on sait que Thompson, il a des meilleures statistiques cette année, mais qu'est-ce que Logan Thompson a gagné dans sa carrière? Absolument rien. Donc, moi, d'y aller avec Binnington, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est la bonne décision.
Puis en plus, il arrive au premier match. Solide performance. Puis je t'en ai parlé, Jeff, hier. Puis vous remarquerez lorsque vous regardez des parties du Canada, une chose que Binnington apporte que très peu de gardiens peuvent apporter, c'est être ce sixième joueur-là. Mm-hmm. Dans une partie avec les meilleurs ou que le jeu va aussi rapidement que ça, avoir un gardien capable d'aller chercher la rondelle derrière le filet puis pouvoir immédiatement relancer le jeu, ça peut faire toute une différence dans une partie.
Ah non, puis surtout que on le sait, il y a eu des problèmes de construction avec l'aréna, donc la zone 1 était plus petite, donc la relance vers l'attaque est super importante. Donc, ouais, très bon point que justement Binnington, avec son bâton, est meilleur que les autres. Donc, c'est un autre atout qu'il peut ajouter à l'équipe canadienne.
Est-ce que l'entraîneur John Cooper va se laisser tenter à un moment donné de réunir soit McKinnon avec McDavid ou Crosby avec McDavid, ou il va garder sa ligne de centre comme elle est là?
Ben moi, le feeling que j'ai, là, c'est que tant que ça va bien, on garde des trios assez équilibrés, ça fonctionne, on roule les quatre lignes, ça y va. Si jamais on avait à tirer de l'arrière, on est en troisième période, selon moi, on va voir un peu comme ce que les Oilers font, qui réunissent McDavid et Draisaitl. Mm-hmm. Selon moi, c'est le même genre de scénario qu'on devrait voir avec le Canada. On va mettre tous les meilleurs éléments ensemble pour essayer de concentrer de l'attaque. Mais je pense que dans le tournoi à la ronde, on risque pas de voir ça. C'est peut-être plus une fois rendu en quart de finale, demi-finale, que peut-être qu'il va y avoir des séquences comme ça, mais on l'a vu déjà en avantage numérique quand ces gars-là jouent ensemble. Puis je pense qu'hier, ça a pris 13 secondes à l'avantage numérique pour marquer. Donc, avec des gars de même ensemble sur la glace, ça peut aller très vite, mais je pense qu'en ce moment, on aime avoir du talent sur tous les trucs.
Mais ça, la profondeur de l'attaque d'équipe Canada a été prouvée pour moi avoir le temps de match que Nathan McKinnon a eu. 14 minutes 30 environ de jeu pour Nathan McKinnon. Quand tu peux te permettre de faire jouer un joueur comme ça pendant 14 minutes 30 dans ton match, puis sacrer une volée de même à l'adversaire quand même, ça en dit long sur ton équipe.
Ouais, puis je pense qu'il y avait un peu du scénario aussi. Là, on a pris l'avance, on était complètement en contrôle. Fait que je pense que Cooper a décidé de donner un petit peu de repos là, à ses meilleurs éléments en troisième, puis même en deuxième période. Si jamais on avait un scénario plus serré, d'après moi, il y a des gars comme Bo Horvat qui vont jouer un petit peu moins. Puis justement, on va voir plus de McDavid puis de McKinnon.
Alex, on termine cette excellente chronique sur les Jeux olympiques en disant que ça brasse dans le groupe B en hockey masculin parce qu'après une défaite contre la Slovaquie, la Finlande a battu la Suède 4-1 aujourd'hui. Ce qui fait que si la Suède bat la Slovaquie et que la Finlande bat l'Italie, tout le monde va être à 2-1. C'était vraiment le groupe le plus paritaire.
Ah oui, totalement. Puis il y a des gens qui mettaient la Suède dans la même catégorie que le Canada et les États-Unis. Là. Désolé, mais non, ils sont vraiment loin de ça. Tu sais, moi, un club où que un de tes meilleurs attaquants, c'est William Nylander puis Elias Pettersson, des gars qui sont questionnés pour leur attitude dans la Ligue nationale. Puis là, on pense qu'ils vont mener leur pays vers l'or. Là, moi, j'y croyais zéro point puis une barre. Je croyais plus à la Finlande. Ils se sont fait surprendre par la Slovaquie. Ça, j'étais quand même assez surpris. Mais selon moi, la Finlande ont plus une équipe. On l'a vu dans les dernières années, notamment du côté junior, tout le temps capable d'avoir des bonnes formations. Donc, non, selon moi, c'est très paritaire dans ce groupe-là. Mais je serais pas surpris que la Suède n'accède même pas aux demi-finales. Honnêtement, un scénario comme ça, je ne tomberais pas en bas de ma chaise.
Non, moi non plus, je ne tomberais pas en bas de ma chaise. Quand j'ai vu Elias Pettersson se faire ramasser aujourd'hui puis tomber sur le banc de la Finlande, je me suis dit, ouais, c'est un peu sa carrière jusqu'à présent. On chute de haut et on se relève pas beaucoup.
Ah non, totalement. Puis je pense que la perte de Leo Carlsson pour la Suède, ça fait très, très mal. Je veux dire, tout mon respect à Marcus Johansson, mais c'est lui qu'on a appelé en renfort là, ouais, pour remplacer Leo Carlsson. Selon moi, c'est pas du tout la même qualité de joueur. Leo Carlsson peut avoir un impact pour la Suède autant que McLean Celebrini pour le Canada. Là, il rate les jeux, donc pour moi, ça a été le dernier clou dans le cercueil de la Suède qui, je ne vois pas remporter une médaille cette année.
Alex Laramin, on se parle lundi. On va espérer une médaille d'or pour le Canada, au moins une, et que les gars en aient gagné deux d'ici là pour qu'on parle des huitièmes de finale et des quarts de finale en hockey masculin.
Ah, définitivement, lundi, on se reparle avec une médaille d'or.
Yes! Salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramie, excellent journaliste et chroniqueur sportif au 99.5 Montréal, avec qui on parle à tous les jours durant la période des Jeux olympiques. Vous cherchez quoi faire ce soir? Vous êtes... c'est le week-end de la Saint-Valentin, j'ai pas grand-chose de prévu. Bien, ce soir, c'est un vendredi 13. Et le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, vous donne rendez-vous à la zone Loto-Québec, à la place de l'Assemblée nationale, pour une soirée festive. De 15h à 20h, débutez les festivités avec DJ Boot, lumineux au bistrot Sac. De 17h à 19h, poursuivez avec le 5 à 7 en musique, toujours au Bistrot Sac. Et à 19h, c'est l'ouverture des portes pour la soirée pop sur la scène Loto-Québec avec Alicia Moffett, suivie de Teezy pour clore la soirée. Venez danser, chanter, célébrer l'hiver comme seul le Carnaval de Québec sait le faire. Pour la programmation complète, rendez-vous au carnaval.ca. Et je vous rappelle, ce soir à la météo, c'est une superbe soirée de moins 6 avec quelques nuages qui est au programme. Alors, vous allez avoir chaud, vous allez danser, vous allez voir du monde et vous allez avoir du plaisir. Rendez-vous à la place Loto-Québec, la zone Loto-Québec du Carnaval de Québec ce soir. Bon, après la pause, on va avoir un débat de génération. Un vrai débat de génération, puis je vais avoir besoin de vous. 418-971-1021.
OK, tu places déjà le monde dans ton camp.
Que vous soyez jeune ou vétéran comme moi à 46 ans, on va se jaser. Parce qu'à la une du Journal de Québec, aujourd'hui, il est mentionné que les étudiants au cégep ont de plus en plus de difficultés à passer l'examen final en français. C'est quoi? 82 % à peu près, Mathias, qu'il passe?
Oui, présentement, c'est 82,7 %.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, gang de jeunes incultes qui sont pas capables d'apprendre le français parce qu'ils sont toujours sur les médias sociaux à écrire avec des abréviations, qui sont sur TikTok à écouter des vidéos anglais. Mais Mathias Turcotte, le genou de Boulevard 101, 22 ans, m'a dit, Jeff, je veux absolument t'expliquer pourquoi cet examen-là ne devrait pas avoir lieu. Donc là, vous comprenez dans mon ton qu'on va avoir un vrai débat sur la langue française, sur le français et sur nos jeunes qui ne s'intéressent plus au français.
Ah, je pense que tu vas voir, je pense que je vais réussir à te convaincre sur certains points parce que pour moi, le débat, c'est pas tant sur l'intérêt du français. Mais 418-971-1021, après la pause, on veut vous voir réagir en grand nombre.
À vos textos, débat sur ces faibles résultats français des étudiants du cégep après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission d'Enjase.
Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Exactement 13h33 minutes. Commande à l'auto. Oui, j'ai faim, j'ai pas dîné. J'ai un bon spag qui m'attend. Météo, moins 6 degrés présentement, généralement ensoleillé, moins 4, quelques averses de neige pour samedi, moins 4 ensoleillé pour dimanche. Et on dit même 0 degré à plus long terme pour lundi. Donc, on a un très beau mois de février après un janvier frais.
Enfin, j'ai envie de dire.
Frette. Exactement. Ce week-end, ne manquez pas notre superbe programmation. Ça commence à 18h ce soir. Le Garage à Dan, la meilleure musique du temps. Avec le bon vieux clavier dans le rock là, qu'il y avait à la Journey. Là. On a ça avec Dan Caron, j'adore. Rock and Chill avec Audrey Pinchot, 7h à 10h les samedis et dimanches matin. Meilleure façon de se réveiller avec un petit café. Par la suite, de 10h à 15h, c'est Dan Demen le samedi et Colosse le dimanche pour le boulevard du Rac. Et tous nos week-ends se terminent de 15h à 17h avec le Rac à Matt. Matt Marcotte qui présente le meilleur rock, dont des chansons qui sortent de notre catalogue ordinaire.
Qui brasse un peu plus.
Oui, j'aime beaucoup écouter Matt Marcotte les samedis et dimanches. Circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire, présentement, capitale direction Est, c'est entre Pierre-Bertrand et Neuvière, c'est au rouge. Leur ancienne direction Sud également pour prendre capitale, c'est au ralenti. Si vous avez des informations, 418-971-1021 par texto.
418-971-1021 pour réagir aussi au prochain sujet que nous allons voir parce que on va parler de deux choses. La première chose, des étudiants au cégep, le taux de réussite est en baisse concernant l'examen final de français. C'est le Journal de Québec qui nous rapporte le tout. Il y aura un gros dossier d'ailleurs sur les cégeps ce week-end que je vais lire avec attention. Le taux au niveau de réussite pour le test de français est passé en 4 ans de 87,9% à 82,9%. Mathias, toi, tu es dans cette tranche d'âge-là. Tu viens de sortir du cégep de 22 ans. Mon vieux préjugé de dire « Les gens ne veulent plus rien savoir du français. Ils lisent pas, ils s'informent pas en français, sont sur TikTok en anglais puis écrivent avec plein de fautes dans leur texto puis ils transcrivent ça sur leur communication écrite à l'école. » C'est-tu vrai, ça?
J'ai envie de te dire d'un certain sens, c'est pas complètement faux. Pour moi, le français évolue. Puis forcément, avec des outils qui facilitent nos écrits en français, que ce soit l'autocorrecteur ou maintenant l'intelligence artificielle de corrige un texte de français gratuitement de manière ultra efficace. Forcément, en termes de correction de texte, en termes de repérer des erreurs, t'es moins bon que tu l'étais.
Ouais, je te ferai le comparatif avec la fameuse arrivée de la calculatrice, parce que moi, j'ai vécu ça. Oui. On n'avait pas de calculatrice au primaire. Je suis arrivé quand j'étais à peu près en secondaire 2. Puis là, on dirait que tout le monde s'est mis à désapprendre comment calculer mentalement.
Puis c'est normal, parce que t'as des outils qui te permettent de le faire plus efficacement. Faut se dire, ces jeunes-là, en français, lorsqu'ils vont sortir dans leurs emplois, pour la majorité d'entre eux, là, vont pas nécessairement avoir besoin d'une maîtrise exceptionnelle du français ou vont avoir des outils de correction qu'ils n'ont pas durant cette évaluation-là. Mais plus loin que ça, parce que je t'en ai parlé, Jeff, je t'ai envoyé ça matin. Puis pour les auditeurs qui nous écoutent, l'épreuve uniforme de français, présentement, c'est 82,9% des cégepiens qui la réussissent du premier coup. Ce qui veut dire que tu as environ 17% des cégepiens qui la réussissent pas. Puis je t'ai dit, cette épreuve-là ne devrait tout simplement plus exister.
Ouais, pourquoi ça devrait plus exister selon toi?
Et puis il y a beaucoup de personnes qui disent, si ça n'existe plus, comment qu'on va...
Comment qu'on va faire pour s'assurer que nos gens qui sortent du cégep, une couche de plus qu'on a par rapport aux autres provinces, au moins maîtrisent notre langue? Parce qu'il ne faut pas perdre notre langue, autant parler qu'à l'écrit.
C'est intéressant ce qui se passe pour moi du côté de l'épreuve uniforme de français, parce que... Pour ceux qui ne savent pas comment que c'est bâti, tu t'assois dans une classe durant 4 heures, tu as quelques textes, tu choisis un texte, puis par la suite, tu analyses dans une dissertation de 900 mots, puis par la suite, tu envoies cette dissertation de 900 mots-là. Tu es évalué sous 3 aspects. Puis un des aspects, c'est la qualité du français. Comment qu'on évalue la qualité du français? C'est si tu fais 30 fautes dans ta dissertation de 900 mots, c'est échec immédiat. Donc, tu passes pas ton épreuve uniforme.
Ouais, puis là, 30 fautes sur 900 mots, ça correspond à quoi en pourcentage?
C'est environ 3,33%.
Ouais, j'avoue qu'un adulte comme moi, que ça fait un bout qui est allé à l'école, qui a plus de
3,33%.
Ouais, j'avoue que c'est quand même assez sévère. Pierre. Puis vous en pensez quoi, vous, 418-971-1021? Parce que le jeune Mathias est en train de me faire changer d'idée. C'est quand même assez sévère, parce qu'un adulte comme moi qui aurait plus d'autocorrecteur, j'écris 900 mots. Ça
arrive vite, 30 fautes.
Ouais.
Puis plus loin que ça, mais mettons que je te dis, c'est même pas la... Mettons qu'on dit, on prend pas en compte est-ce que l'examen est sévère ou non. J'ai été tuteur pendant 2 ans au cégep de Jonquière pour des élèves, justement. Le but, c'était de leur faire passer ces examens-là. Ah,
t'as fait ça, toi?
J'ai fait ça.
C'est donc bien cool.
Puis la grosse, grosse majorité, là, c'est environ 90 % des étudiants qui échouent l'épreuve uniforme de français, l'échouent en raison des fautes, justement. 30 fautes ou plus.
Pas en raison de la compréhension du texte, de l'analyse du texte, des questions
exact.
Qu'on a à répondre.
C'est surtout pour les fautes de français.
Okay.
Par contre, une chose qui est à prendre en compte, au cégep, t'as 3 cours de français écrit obligatoires. Dans aucun de ces cours-là, tu reçois des cours de grammaire. Donc, dans aucun de ces 3 cours-là, tu reçois des cours sur comment mieux écrire, comment faire moins de fautes. Tu ne reçois plus de cours de grammaire. Donc, ce qu'on dit aux élèves durant le cégep, c'est on dit durant 2 ans, on vous apprend pas de grammaire. Et par la suite, vous faites une dissertation où la majorité d'entre vous qui vont échouer, c'est en grammaire que vous allez échouer. Mais on leur apprend plus la grammaire. Donc là, je trouve ça un peu bizarre de dire on évalue des étudiants qui vont échouer parce qu'ils n'ont pas un assez bon niveau en grammaire, mais on fait pas de cours de grammaire au cégep.
Hey, je trouve tellement ça étonnant ce que tu me rapportes parce que moi, je sais qu'on avait des cours à l'époque, mon cégep, français 1, français 2, français 3, français 4.
Oui.
Puis moi, j'ai même fait français mise à niveau parce que j'avais fini mon secondaire 5 avec 64 % en français. En français mise à niveau, là, c'était juste ça, là, de la grammaire, etc. Mais dans mes 4 français, il y avait quand même de l'apprentissage de la langue. Oui, c'était plus basé sur l'écrit, mais il y avait de l'apprentissage de la langue. Là, s'il n'y en a plus, je me range de ton côté. Je suis très d'accord parce que tu peux pas évaluer quelqu'un sur quelque chose que tu n'as pas enseigné.
Que tu n'apprends pas. Puis il y a quand même un peu d'apprentissage de la langue, mais c'est de la littérature. Donc, on lit des ouvrages, on apprend des segments d'histoire pendant lesquels telle littérature a été utilisée ou en littérature québécoise. C'est quoi l'histoire? Mais beaucoup moins axé sur la grammaire. Lorsque l'enseignant va le faire, ça va être des rappels. Ça va pas être nécessairement dicté à l'enseignant de le faire. J'ai fait un cours de français écrit avancé au cégep qui était extrêmement pertinent. On décortiquait la grammaire, on apprenait à mieux écrire. Mais présentement, c'est pas ça qui est proposé aux étudiants.
Ça prendrait ça pour tous les étudiants.
Exactement. À la limite, si tu veux faire une épreuve à la fin de toute, que tu dis, OK, on vous évalue sur votre français écrit, puis que tu sais que la majorité du monde échoue en grammaire, fais en sorte qu'il y ait au moins un cours de grammaire durant le cheminement pour éviter que ça se produise. Présentement, c'est pas ça.
Mm-hmm.
Je t'amène sur une autre réflexion.
Ah oui, donc.
Ton infirmière, OK? Ton infirmière, la personne qui a fait 3 ans en technique d'infirmerie, qui n'a pas nécessairement le meilleur niveau de français, mais qui a passé ses 3 cours de français écrit au cégep, qui veut avoir sa technique présentement pour pouvoir exercer son métier avec son diplôme, ne réussit pas à passer l'épreuve uniforme de français, a passé ses 3 cours en français. Cette personne-là n'a pas sa technique, n'a pas son diplôme officiel comme quoi elle a sa technique pour être infirmière. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable de passer l'épreuve uniforme de français malgré le fait qu'elle a passé tous ses cours de français.
Est-ce qu'à ce moment-là, on devrait donner une diplomation pour qu'elle puisse travailler comme infirmière? Parce que, bon, tu sais, je vais donner un exemple niaiseux, là, mais tu sais, elle sait faire ses prises de sang, mais il faut quand même que dans un certain délai, elle ait repassé l'examen plutôt que d'être bloquée.
C'est souvent ça qui est accordé pour beaucoup de personnes qui font des techniques. Mais honnêtement, quand on regarde, par exemple, notre système de santé ou le taux de chômage présentement de la ville de Québec qui se situe entre 3 et 4 %, on a besoin d'emplois dans beaucoup de secteurs. Est-ce qu'on est vraiment prêt à dire à des personnes qui sont motivées, qui ont fait les 3 années, qui ont toutes les qualifications nécessaires pour faire ces métiers-là? Non, on veut pas de toi parce que dans ta dissertation finale de français de 900 mots, tu as fait plus que 30 fautes. Je trouve ça un peu contre-productif.
Oui, non, je suis d'accord avec toi. Moi, là, de toute façon, où est-ce que j'ai accroché? Vous êtes énormément à réagir par texto. On va aller vous lire dans quelques instants. C'est super intéressant de vous lire. Moi, où est-ce que tu me fais réagir? C'est tout simplement le fait que faut l'enseigner. Faut changer le programme de français au cégep. Faut continuer à enseigner de la grammaire. Il y a un texto qui est rentré là, que je vais tenter de retrouver. Là. Pardonnez-moi, il y en a énormément qui rentrent. Disait, ouais, mais c'est des acquis que tu es censé avoir au secondaire. Mais excusez-moi, mais c'est pas tout le monde qui sort du secondaire avec ces acquis-là. J'en suis une preuve. vivante. Je suis sorti du secondaire avec un 64% français. J'avais pas les équipes ou les participes passés. C'est rendu au cégep que j'ai développé ces compétences-là.
Puis encore une fois, je le répète, il y a dans certains cours qui sont enseignés, puis il y a des aspects d'écriture qui sont enseignés au secondaire, au cégep. C'est pas vrai que durant 3 ans, on apprend rien absolument en grammaire. Mais comme que je dis, c'est pas obligatoire des enseignants de l'enseigner. Là. Si un enseignant décide « j'enseigne aucune grammaire à mes étudiants », c'est des cours de littérature. C'est des cours de littérature, je le répète avant tout. Donc, ils n'ont pas l'obligation. Puis des cours de grammaire, c'est excessivement intéressant. Comme que j'ai fait, par exemple, un cours de français écrit avancé, on a eu la chance de faire ça. On a appris tout ce qui est anglicisme, tout ce qui est talc de l'anglais, comment bien s'exprimer, des bons mots à utiliser, des exceptions au côté français. Puis j'étais excellent en français au secondaire que je connaissais pas. Donc, de dire au lieu d'offrir des cours de littérature, d'arriver avec une épreuve uniforme, que tout le monde échoue sur des affaires qu'on voit plus ou moins durant nos 2 années, dire on va revoir comment qu'on apprend le français, puis on va rendre nos cours de français réellement efficaces, puis on va offrir une chance réelle à ces étudiants-là de réussir par la suite. Le nombre d'étudiants que j'ai reçus en tant que tuteur, que c'était pas nécessairement qu'ils n'avaient pas les capacités pour réussir cet examen-là. Ces étudiants-là, une fois, après avoir été accompagnés et aidés dans des stratégies de correction individuelle, excellaient en français. C'est juste que certaines compréhensions de certains aspects de grammaire au secondaire, parce que c'est pas tout le monde qui est très attentif au secondaire, je rappelle que c'est des adolescents, mais sont passés à côté, puis on leur rappelle pas ça au cégep, ils s'en souviennent pas, puis ils finissent par, parfois, échouer leur épreuve uniforme en raison de ça.
En effet, je suis d'accord pour qu'on revoie le programme de français au cégep. Vous avez été énormément à réagir. Il y a Martin qui mentionne faut savoir écrire et les tests, faut pas les enlever parce que c'est simplement le reflet de l'enseignement du français qui est moins bon qu'avant. Il y a cette capacité-là aussi à enseigner. Un auditeur qui écrit « J'utilise ChatGPT. Quand j'ai pas accès, j'ai l'impression de revenir dans le bon vieux temps de Jeff. » En effet, c'est pas toujours évident. Après ça, ben, le problème, c'est que si on ne fait pas cette épreuve-là, les gens vont manger une claque rendue à l'université. C'est Nicolas Xavier qui nous écrit
Je suis à l'université présentement. On n'a pas de cours de français à l'université. Il n'y a plus de cours de français à l'université. Tu fais ton programme, tu fais des cours spécialisés dans ton programme. Puis si tu réussis les cours de ton programme, mais t'as ton diplôme à la fin de tout.
Ouais, par contre, rendu au bout sur le marché du travail, là, c'est un auditeur qui écrivait ça pour parler à des clients, pour parler justement à des partenaires importants. C'est important d'avoir un bon français écrit.
100%, mais encore une fois, maintenant, puis je veux pas paraître du godard, mais il y a beaucoup d'outils de correction qui sont utilisés par beaucoup de personnes qui sont excessivement efficaces. Mais c'est important.
Mais pareil là-dedans,
je suis d'accord.
C'est ça, c'est important d'être capable de bien le maîtriser malgré qu'on n'ait pas les outils. Je fais juste penser à des parents qui vont devoir faire les devoirs avec leur enfant plus tard.
Puis, encore une fois, je remets pas l'importance de la maîtrise du français en question. Ce que je remets en question, c'est l'importance d'avoir une épreuve uniforme en français pour tester des connaissances en français de personnes qui ont réussi leurs 3 cours de français écrit au cours de leur cégep.
On va certainement en reparler, Mathias, parce que c'est un sujet qui a passionné nos auditeurs.
Ça réagit.
Quelqu'un qui nous dit « Hey, en droit, si tu fais des fautes de français, c'est déduit de ta note. » Même principe pour certains cours à l'université qui déduisent 1% de ta note si tu fais des fautes par faute. En ingénierie, il y a des cours style philosophie et l'épreuve est écrite, un texte de 3 heures sans accès à un dictionnaire. C'est Eric qui nous écrit ça. Bref, Mathias, excellent sujet, ce sujet sur le français. Et moi, je suis juste content de voir que nos auditeurs tiennent encore à leur langue parce que c'est très important, le français, ici au Québec. Dans un instant, on revient avec la conclusion de l'émission, c'est-à-dire quelques manchettes à retenir à l'émission Nageurs sur Boulevard 101.
Si c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
13h52 minutes, l'émission tire à sa fin. Gravel dans le retour de 14h à 18h. Manquez pas le segment Québec-Montréal à 17h02. André Richard, Martineau et Denis Gravel. Un segment toujours très intéressant pour terminer votre semaine. Garage à Dan de 18h à 20h. Je vous rappelle notre programmation régulière qui reprend le lundi matin avec Marceau le matin à compter de 6h, de 6 à 10, et le point de max de 10h à midi. Manquez pas notre émission dans Jazz lundi prochain. On va décortiquer deux fiascos informatiques. Le premier, ça clique parce qu'à 11h30, ça sera la conférence de presse du commissaire Galland qui va déposer son rapport publiquement. Donc, analyse avec Antonine Iaccarini. Mon chef d'éragie du Parti libéral du Québec, leader parlementaire, va venir également s'asseoir en studio avec nous. Et Curam, dont on a appris l'existence par Antonine Iaccarini cette semaine, soit mardi dernier, qui est rendu à 6,6 milliards, un dépassement de coûts de 5 milliards. Il y a une enquête publique qui est réclamée par le Bloc québécois. On a d'ailleurs parlé avec Christine Normandin, leader du Bloc québécois aujourd'hui. Ça va se retrouver sur le blvd.fm. Eh bien, on aura Joël Lightbound en studio aux alentours de 12h10 pour nous parler de cette situation problématique. Mathias, circulation?
Capitale, direction est, ralentissement entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuvial présentement et Laurentienne en direction sud. C'est en arrivant sur Capitale que ça se passe. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Pour ceux qui se demandent, hey, Jeff, c'est quoi que tu dis là quand tu parles de la commission Galland?
De ça. Je me souviens pas, j'ai pas de souvenir, tu sais, c'est un peu comme l'autre page. J'ai pas de souvenir spécifique, de conversation spécifique sur une page spécifique. J'ai aucun souvenir. J'ai pas le souvenir, moi, expérientiel dans ma mémoire. Je peux pas avoir de souvenir exact. J'ai pas de souvenir plus précis. En fait, j'ai pas de souvenir précis.
Ça, c'était Geneviève Guilbeault qui n'avait pas de souvenir. C'était quoi, donc, si la commission Galland?
C'est parce que je suis un peu étourdi. Là. Vous vous envoyez le 8 avril 2016 la soumission de Deloitte à votre adresse personnelle. Soumission de Deloitte qui est supposée être dans un bunker barré à clé. Vous avez tout à fait raison.
Ouais, étourdi.
Il est étourdi.
Vous venez de me dire que vous n'avez pas eu accès à la soumission.
Ah non, j'ai pas eu accès.
Honnêtement, je suis moi-même, là. Je me souviens pas de ça. Mais je peux pas. Je peux pas.
Avis de 48 blâmes sur Carl Malenfant. Puis le commissaire Galland, je m'en rappelle plus. Il avait quel tempérament?
Vous ne pouvez pas intervenir.
Article 32, les droits fondamentaux. Je vous demande de vous asseoir.
Je vous demande de vous asseoir.
Il ne se laissait pas faire.
Je vous demande de vous asseoir.
Ben, je suis assis.
Vous continuez, vous répondez à la question et on arrête pour le dîner.
Donc, je n'ai pas le droit d'intervenir?
Est-ce que vous avez... Je déciderai si c'est de l'argumentation. Pour l'instant, je n'en vois pas. Votre client fait ça depuis trois jours de l'argumentation.
Alors, c'est lundi 11h30, le rapport du commissaire Galland qu'on attend depuis longtemps sur le fiasco Satlick. Donc, ça va être à suivre. Évidemment, on va vous informer en direct à l'émission On en jase à compter de midi.
Puis, j'ai vraiment hâte de voir les pistes de solutions qui vont être apportées par le commissaire Galland parce que quand on voit les fiascos qui commencent à se multiplier, autant au provincial, autant au fédéral, dans la transformation numérique, on va avoir besoin de ces solutions-là pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
Ah, vraiment. On vous souhaite un excellent week-end en attendant. Pensez pas au fiasco, ça clique. Pensez pas à Curam.
C'est les Olympiques.
C'est Go Canada Go. On veut notre première médaille d'or ce week-end. On veut une victoire des gars en hockey masculin cet après-midi, 15h10. Merci d'avoir interagi en si grand nombre sur le 418-971-101. Merci d'être à l'écoute de l'émission On en jase. Et on se parle la semaine prochaine à compter de midi.
Bonne fin de semaine, tout le monde.